7h-9h,
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, excellente semaine. Nous sommes le lundi 14 janvier. Françaises, mes chers compatriotes, une lettre à la une ce matin, celle d'Emmanuel Macron aux Français. Avant le grand débat national qui doit commencer demain, le président interpelle les Français et les invite à débattre sur tous les thèmes de la vie quotidienne, décryptage et analyse. Dès le journal de 7h avec Hélène Zélani et puis à 7h40 avec Jean-Michel Apathy. Et puis dans notre matinale, retour sur ce drame qui a ému toute la France, l'explosion samedi matin d'une boulangerie de la rue de Trévise à Paris. Bilan 4 victimes, dont 2 pompiers et plus de 50 blessés. À 7h45, je recevrai le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que Jean-Paul Claret, le maire de la commune en Savoie, d'où était originaire Simon Cartanaz, l'un des 2 jeunes pompiers qui a perdu la vie. Voilà pour le sommaire, on est ensemble jusqu'à 9h, c'est lundi, c'est la reprise, on pense à vous et on vous accompagne jusqu'à 9h.
Excellent début de semaine en ce lundi 14 janvier. Et très bon réveil à tous, il est 7h. Et votre matinale info sur Europe 1, c'est avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Cette fameuse missive qui nous est adressée à tous par le président de la République comme premier, Emmanuel Macron a donc dévoilé hier soir cette longue lettre pour cadrer le grand débat national qui s'ouvre demain. Un quartier encore sous le choc, les habitants d'une douzaine d'immeubles ne peuvent plus rentrer chez eux. Il faut sécuriser les bâtiments après l'explosion au gaz rue de Trévise qui a fait 4 morts dont 2 pompiers. Et puis un supermarché d'un genre très particulier, uniquement des produits périmés dans les rayons. C'est une première en France et ça se passe à Avignon. On vous y emmènera.
Europe 1.
6 pages, 34 questions. Emmanuel Macron s'adresse donc à nous, les Français, pour nous demander de participer au grand débat national, de nous approprier l'exercice. Que faut-il retenir de cette lettre, Jean-Rémy Baudeau ?
Eh bien Hélène, dès les premières lignes, le président explique qu'il n'y aura pas de questions interdites dans ce débat, même si à demi-mot, il affirme ne pas vouloir revenir sur l'ISF, ni sur tout ce qui a déjà été voté. Pour Emmanuel Macron, ce temps doit être l'occasion d'apporter, je cite, une clarification à notre projet national et européen, et par la suite, à travers les 4 thèmes du débat que sont la fiscalité, l'État, la transition écologique et la démocratie, le président propose des questions qu'il juge essentielles. En tout, plus d'une trentaine d'interrogations inspirées des premiers cahiers de doléances. Comment rendre notre fiscalité plus juste? Quelles économies vous semblent prioritaires? Faut-il reconnaître le vote blanc? Ou encore, quelles propositions concrètes pour accélérer notre transition environnementale?
Et il y a aussi des questions un peu plus sensibles.
Oui, le président parle aussi laïcité ou immigration avec la question sur d'éventuels quotas. C'est une revendication qu'on ne retrouve pas chez les Gilets jaunes, mais il s'agit pour le chef de l'État de parler à l'ensemble des Français. Emmanuel Macron qui appelle dans les dernières lignes à transformer les colères en solutions. Il promet un nouveau contrat pour la nation et rappelle que le débat est, je cite, « ni une élection ». Ni un référendum.
Jean-Rémy Baudeau. Sans surprise, l'opposition ne ménage pas ses critiques. Un enfumage pour la France insoumise. Laurent Wauquiez pour leur LR dénonce le risque d'un artifice grossier. Manœuvre de l'exécutif pour gagner du temps, dit-on au Rassemblement National, tandis qu'au PS, Olivier Faure estime qu'on ne convoque pas tous les Français à un débat en leur interdisant de parler par exemple de l'ISF. En fin de journée, Édouard Philippe doit préciser les modalités concrètes de l'organisation de ce grand débat qui sera lancé demain.
Et dans l'Aude, des groupes de gilets jaunes ont décidé d'organiser leur propre grand débat.
Oui, l'idée, c'est d'aller directement à la rencontre des habitants avec un questionnaire qui reprend les principales revendications du mouvement, histoire de définir les priorités. L'objectif est de remplir au moins 30 000 formulaires dans le département. On vous raconte comment ça se passe à Carcassonne avec Benjamin Péter.
Ils se sont installés devant l'entrée de cet hypermarché et invitent les clients à remplir leur questionnaire.
Vous avez 5 thèmes, donc chaque fois vous cochez que 3 cases. Prenez votre temps. Hein.
Fiscalité, écologie, réforme de l'État, santé, éducation. Pas toujours évident de définir ses priorités dans chacun de ces thèmes.
Prévoir un impôt sur le revenu.
Oui, avec plus de tranches.
Ah, ça oui, ça c'est très important. Coche pas tout de suite, il y en a peut-être d'autres.
C'est bête qu'on ne puisse pas cocher plus de 3.
Il y en a une autre qui m'intéressait bien, moi, c'était annuler la hausse de la CSG et supprimer les niches fiscales.
Mais Christian est ravi de pouvoir donner son avis.
Il y a nécessité à ce que le français s'exprime. On ne peut pas continuer comme ça, à avoir des politiques qui durent depuis 70 ans sans que ça change.
Alors en tout, le document compile 67 propositions entendues sur les ronds-points, lues sur le net. Romain appartient à ce groupe Carcassonne en colère à l'origine de la consultation.
C'est pour montrer que nous sommes force de proposition. Chacun des revendications, on va voir donc nos concitoyens, pas que les gilets jaunes, pour prouver à notre gouvernement qu'il y a des choses qui ressortent et que lui n'entend pas.
Et l'idée séduit puisque dans les l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, d'autres groupes souhaitent également lancer une consultation en reprenant le même questionnaire et une vingtaine d'autres départements pourraient les imiter. À Carcassonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Et selon les derniers sondages, entre 32 et 41% des Français ont l'intention de participer d'une manière ou d'une autre au grand débat.
Europe 1, il est 7h04.
L'ancien ministre Thierry Mariani en troisième position sur cette liste qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h20. Et puis toujours des zones d'ombre après la violente explosion de samedi rue de Trévise dans le centre de Paris.
4 personnes sont mortes dont 2 pompiers. Il y a aussi une cinquantaine de blessés dont 9 graves. L'explosion qui serait liée à une fuite de gaz a fait trembler les immeubles tout autour. 12 restent d'ailleurs fermés. Il faut vérifier si les fondations ont bougé dans la déflagration. Impossible donc pour les habitants de rentrer chez eux. Victor Dolande.
Pauline fait rouler sa valise. Dedans, quelques affaires qu'elle a pu récupérer chez elle. Depuis la catastrophe, elle dort à l'hôtel. Le gaz et l'électricité ne sont toujours pas rétablis dans son immeuble. Et le traumatisme est encore trop fort.
Quand je suis re-rentrée chez moi, j'ai pleuré tout de suite. Parce que j'ai revécu l'explosion, en fait, qui était devant mes yeux. Mais dès que je fais autre chose, ça va.
Donc peut-être que ça vous aidera justement
ouais.
demain de
ouais,
reprendre
ouais,
le travail.
Complètement. Puis je pense que ça me changera les idées.
Reprendre une vie normale, difficile quand on ne peut pas rentrer chez soi. Heureusement, de nombreux habitants du quartier comme Arnaud ont apporté des habits à la mairie du 9e arrondissement de Paris.
On a apporté une valise pleine de vêtements. Ça nous a paru être la moindre des choses d'apporter des affaires. Ouais.
Une solidarité aussi efficace que rapide. Christian est bénévole au Lions Club. Il n'a pas hésité une seconde à puiser dans le fonds de secours de son association.
Ça nous permettra d'agir rapidement, notamment par exemple pour les enfants, pour éventuellement acheter des cartables tout simplement pour qu'ils puissent aller à l'école, pour ne pas couper le rythme de leur vie.
Autant de petits gestes indispensables qui aideront les habitants sinistrés à tourner la page.
Victor Dolande, les pompiers de Paris ont lancé une cagnotte pour soutenir les familles des 2 sapeurs-pompiers tués dans l'explosion. Simon Cartanaz et Nathanaël Josselin, elle a déjà rassemblé plus de 165 000 euros.
Et à 7h45, on sera avec le lieutenant-colonel, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, Gabriel Plus, justement pour parler de cette explosion de samedi.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal, l'Italien Cesare Battisti, attendu à Rome, accusé de 4 meurtres. Il a été expulsé par la Bolivie. À tout de suite sur Europe 1. On vous dit tout dans le journal d'Hélène Zeleni.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zeleni. Fin de cavale pour l'ex-activiste d'extrême gauche italien Cesare Battisti.
Oui, condamné à la perpétuité pour 4 meurtres dans les années 70. Il a été livré aux autorités italiennes par la Bolivie et doit arriver à Rome à la mi-journée. Et il sera emprisonné. Écoutez ses réactions captées dans les rues de Rome par Marine Henriot.
Je fais partie d'une génération qui n'a pas connu Cesare Battisti. Mais ça me fait plaisir qu'une personne qui a commis des actes terroristes, un jour ou l'autre, paie pour la souffrance qu'elle a causée.
Cela nous rappelle des temps très obscurs pour l'Italie, avec une grande division politique.
C'est un cercle qui devait se refermer, une affaire qui est restée en suspens trop longtemps. Pour nous qui avons vécu les années de plomb, cette arrestation... elle a une dimension cathartique.
Cesare Battisti est une personne condamnée pour homicide. Elle a fui la prison et appartient maintenant à la justice. Je ne sais pas si les familles des victimes trouveront la paix, mais au moins elles trouveront la justice.
Et le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, compte réclamer rapidement à la France d'autres ex-militants d'extrême gauche condamnés pour meurtre.
Pour la première fois en France, un supermarché solidaire propose des produits alimentaires périmé.
Oui, c'est à Avignon, dans le Vaucluse. Une association propose aux personnes en difficulté d'acheter à prix cassé. Certes, les dates limites sont dépassées, mais bien entendu, il n'y a aucun risque pour la santé. C'est aussi un concept anti-gaspillage pour inciter les grandes surfaces à moins jeter. Nathalie Chevance est allée y faire un tour pour Europe 1.
C'est un supermarché presque comme les autres, sauf qu'au rayon alimentaire, toutes les dates limites d'utilisation optimale sont dépassées.
Un paquet de céréales d'une grande marque, au 26 octobre 2018, le produit peut être consommé encore plusieurs mois après la date de fin de vie. Donc là, elle était à 1 euro, la boîte.
1 euro au lieu de ?
Au lieu de, je crois qu'on est aux alentours de 3 euros dans la grande distribution classique.
Des produits offerts par les grandes enseignes, démarchés par Nabil Haïtar, bénévole au sein de l'association Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse.
Aujourd'hui, le cahier des charges de la grande distribution est extrêmement exigeant. Les produits doivent être retirés bien avant finalement leur durée de vie totale. Et donc, on s'adresse à ces gens-là pour leur dire vos produits, en fait, ils peuvent encore bénéficier à des personnes qui en ont besoin.
Avec des tests effectués sur les produits les plus sensibles, cette famille avec 3 enfants arrive à faire les courses de la semaine pour 50 euros.
J'ai pris des hamburgers, du fromage, des crêpes au chocolat, des bonbons pour les enfants. Ouais, y en a qui sont périmés depuis un mois, mais pas beaucoup en fait.
On peut les manger, hein. 2 mois, même 3 mois après, c'est bon.
Si on avait les moyens d'aller dans un supermarché normal, on serait allé.
Un supermarché solidaire qui ne tire aucun bénéfice, l'objectif étant de servir les clients les plus modestes et de couvrir les frais. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis on reste dans le sud, précisément au stade Vélodrome à Marseille, où les supporters de l'OM ont crié leur colère hier soir lors du match contre Monaco en Ligue 1, avec notamment cette banderole « Vous êtes la honte de Marseille ». Score final, 1-1. L'OM pointe à la 9e place du classement.
Merci Hélène Zélani pour le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10. Cette semaine, on retrouve Martin Fenot sur le terrain, Nikos.
Vous êtes où ce matin, Martin ?
Alors, je suis au bord d'un lac de montagne, dans la brume, ce matin, devant la centrale hydroélectrique la plus puissante d'Europe. Mmh. Elle est en France, ici, au cœur des Alpes, tout près de Grenoble. Alors, de l'extérieur, ce n'est pas très impressionnant. Ça ressemble à un grand hangar, mais tout se passe à 100 mètres sous terre. Je vous propose de mettre un casque de chantier, de descendre avec Jean-Paul Giraud dans les entrailles de la centrale.
On vous suit.
L'ascenseur P81, direction la centrale souterraine. Donc là, on va descendre de 100 mètres. Là, on arrive à la salle des robinets sphériques. C'est pour ça qu'il y a la porte étanche devant nous. Là. Donc c'est ici que l'eau descend du barrage supérieur pour alimenter notre batterie hydraulique. Attention, le gyrophare qui tourne signale qu'il y a une machine qui est en cours de démarrage.
Donc là, il faut qu'on mette les boules qui est.
Voilà, on va mettre les protections auditives.
Là, il y a le sol qui se met un peu à trembler.
On voit le robinet qui est en train de s'ouvrir. Il y a 18 mètres cubes secondes qui sont en train de passer. Là, on se trouve sur l'alternateur. L'alternateur permet de transformer de l'eau en électricité.
Voilà pour la mécanique. Cette centrale, il faut savoir qu'elle a un fonctionnement très particulier. Un lot qui fait tourner les turbines circule en boucle entre deux bassins, l'un en altitude, l'autre dans la vallée.
Donc si je comprends bien, c'est un circuit fermé, Martin.
Exactement, et c'est ce qui fait que la centrale est totalement autonome.
Quoi qu'il arrive, on est capable d'injecter notre puissance sur le réseau en 3 minutes. On est capable de faire face à une difficulté côté réseau électrique et de remplacer, encore une fois, n'importe lequel des moyens de production.
Mmh. Donc si demain, je sais pas, il y a un blackout national, c'est cette centrale hydroélectrique qui prendra le relais, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Notamment celle-là, elle peut fournir de l'électricité pour une ville comme Marseille, par exemple. Et puis, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui de cette centrale parce que, vous savez, le gouvernement va dévoiler bientôt ce qu'on appelle la PPE qui va définir la politique énergétique française des prochaines années. Eh bien, une des volontés du gouvernement, c'est justement de développer cette énergie, ce type de centrale. Il y en a 6 aujourd'hui en France. Bah, figurez-vous, même si ce n'est encore qu'un projet, qu'une 7e pourrait être construite bientôt à Truyères, dans l'Aveyron.
Merci Martin Fenot pour cette immersion dans la centrale hydroélectrique de Grand Maison, près de Grenoble. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur Europe 1, à 7h10.
Europe 1.
Et il est 7h13, à suivre Nico Saliagas.
L'édito Éco, il est signé Daniel Fortin ce matin. On parle de quoi, Daniel ? Bonjour.
Eh bien, bonjour, je vais vous parler de médecine et de la possibilité ouverte depuis hier de consulter un médecin à distance, juste avec son ordinateur.
Et puis à 7h20, Europe 1 va plus loin. Imaginez. 700 millions d'euros d'aide européenne destinée à nos communes, mais qui pourraient bien nous passer sous le nez. Pourquoi ? C'est l'enquête de la rédaction, tout de suite, dans Europe 1 va plus loin.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Une lettre et 34 questions. Emmanuel Macron appelle le plus grand nombre de Français à participer au grand débat national qui s'ouvre demain. Édouard Philippe en précisera les modalités dans la journée. Deux policiers du 36 quai des Orfèvres. Devant les assises, ils sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne il y a près de 5 ans dans les locaux de la PJ sur fond de soirée alcoolisée. L'explosion de la rue de Trévise à Paris. Les opérations de sécurisation pourraient durer une bonne partie de la semaine. 12 immeubles sont fermés. Le bilan est de 4 morts, dont 2 pompiers. Le porte-parole des pompiers de Paris sera notre invité à 7h45 sur Europe.
Europe 1. Il est 7h16, c'est l'heure de l'édito Éco, Nikos.
Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos, c'est officiel depuis hier. Doctolib, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne, a ouvert à ses membres un service de consultation à distance. Alors, c'est une première en France, en tout cas à une telle échelle.
Eh bien oui, parce que Doctolib, ce sont 40 000 médecins adhérents. Ils payent déjà un abonnement, vous l'avez dit, pour permettre à leurs patients de prendre un rendez-vous en ligne. Eh bien, depuis hier, ces médecins peuvent s'offrir via cette plateforme un nouvel outil de consultation à distance. Il suffit que le patient soit équipé d'un ordinateur, d'une caméra et bien sûr d'une connexion Internet. Il bénéficiera des mêmes soins que dans un cabinet, même tarif, même remboursement. remboursement et il se verra évidemment délivrer une ordonnance.
Est-ce qu'on est sûr de la qualité de la consultation ? Est-ce que ça peut vraiment remplacer un face-à-face avec son médecin, Daniel ?
Alors cette objection, cet argument ont été longtemps utilisés par une partie du corps médical qui s'opposait à cette numérisation de la médecine. Mais aujourd'hui, il ne tient plus cet argument. D'abord parce que les technologies ont beaucoup progressé. Ensuite, parce que la consultation à distance vaut mieux que pas de soins du tout. Elle permet notamment de résoudre en partie le problème des déserts médicaux ou celui de l'engorgement de certains cabinets de spécialistes. Et d'ailleurs, l'assurance maladie y croit tellement à cette médecine en ligne qu'elle a permis son remboursement par la Sécurité sociale en septembre dernier. Et elle encourage même financièrement les médecins à y recourir.
Mais j'ai des questions un peu concrètes. Quand on a mal à la gorge et que le médecin vous dit de tirer la langue, on fait comment ? On se met devant la caméra de l'ordinateur ?
Exactement.
C'est ça ?
Absolument. Et si le médecin a un doute, il peut appeler un spécialiste via ce même outil de consultation.
Et la tension, on fait comment ? Quand on doit se faire palper, on fait comment ?
Alors ça, je pense qu'il faudra que vous alliez sur Doctolib pour vous renseigner.
Ça fait réfléchir en tout cas, mais jusqu'où peut aller cette automatisation de la médecine ?
Eh bien sans doute très loin. Vous savez que souvent on dit que ce sont les métiers peu qualifiés qui paieront le plus lourd tribut à la révolution numérique. Eh bien, ça n'est pas toujours vrai. La preuve, les médecins vont devoir abandonner de plus en plus de tâches aux robots, surtout les spécialistes. Et on a peut-être trouvé là le moyen de faire de vraies économies dans la santé sans dégrader la qualité des soins.
Le Zoom Echo avec Didier Fortin, c'était ce matin sur Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à un incroyable gâchis.
Alors imaginez, 700 millions d'euros d'aide européenne pour la France qui pourrait bientôt partir en fumée. Ce sont des aides pour le développement rural que Bruxelles nous a versées, mais qui n'ont toujours pas été dépensées et qui seront perdues vraisemblablement l'an prochain. C'est une histoire à dormir debout. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Nikos.
C'est vous qui avez enquêté. Déjà, expliquez-nous de quoi il s'agit. On parle du fonds Leader.
Oui, ce sont des aides pour développer des projets dans les campagnes, l'installation d'un artisan dans une commune, l'achat de matériel pour des agriculteurs, des postes d'animateurs dans des centres sociaux. Par exemple, l'Europe nous a alloué à la France 700 millions d'euros à dépenser entre 2014 et 2020, sauf qu'à un an de la date butoir, on n'a dépensé que 3% de cette enveloppe.
Alors, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, mais tout d'abord, les grands perdants. Les grands perdants, ce sont ceux qui ont monté ces projets, précisément.
Et oui, ces dossiers pensés, réfléchis, validés à trois niveaux, département, région, Union européenne, et qui au final ne touchent rien. Alors, ce sont parfois des entreprises ou des associations comme celle de Bénédicte Vivion à La Châtaigneraie en Vendée. Elle a monté, Bénédicte, en 2017, un gros festival qui a fait venir plus de 10 000 personnes dans cette commune de moins de 3 000 habitants. L'Europe lui a accordé 30 000 euros à travers ce fonds Leader. Sauf qu'aujourd'hui, elle les attend toujours et que c'est même devenu un handicap.
C'est un stress. On a dû contracter un premier prêt. Comme la subvention n'avait toujours pas été versée, on a dû en contracter un second. Là, on est à plus de 1 200 euros d'intérêts et de frais de dossier. Donc en fait, on devait nous donner 30 000 euros, mais notre dette s'alourdit de jour en jour. Ces 30 000 euros, on les espère tellement parce qu'on dit à nos fournisseurs, vous allez être payés. Ils ont l'impression qu'on leur ment. C'est des entreprises en plus locales qu'on a fait travailler. On les a mis en péril. C'est pas une aide, ça devient un poids.
Quelle histoire ! Ces aides hypothétiques qui se transforment en poids financier. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Est-ce que c'est la faute de Bruxelles ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
On tend à se dire par réflexe, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est bien un dysfonctionnement 100% français, dont la responsabilité incombe à la fois aux régions et à l'État. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez claire. Jusqu'en 2014, c'est l'État qui gérait ce fonds Leader. Tout fonctionnait très bien. Sauf qu'en 2014, on a décidé de confier la gestion des dossiers aux régions. Ça pouvait paraître une bonne idée. Elles sont plus près du terrain. Elles voient les choses de manière plus concrète. Sauf qu'en fait, les régions n'étaient pas prêtes du tout. En plus, dans le même temps, elles ont dû gérer leur fusion. Le passage de 22 à 13 régions, ça faisait plus de dossiers à gérer pour chacune. Résultat, le traitement a pris énormément de retard. En plus, l'État a gardé l'autorité de déclencher les paiements. Ça rajoute une étape supplémentaire. Et cerise sur le gâteau, Nikos, le logiciel informatique qui gère tout ça n'a pas marché jusqu'à l'année dernière.
Absurdité.
On se retrouve donc avec 5000 porteurs de projets comme Bénédicte qui attendent aujourd'hui de l'argent qu'on leur a promis.
Et 97% de l'enveloppe qui doit encore trouver preneur. Théo, cet argent, il y a urgence à le verser. On peut vraiment le perdre ?
Et bah, si on ne le fait pas d'ici la fin 2020, effectivement, ces 700 millions seront perdus. Retour à l'Union européenne, ce qui désespère Thibaut Guignard, le président de Leader France. Il représente les porteurs de projets.
Oui, c'est terrible. Depuis 2014, on nous a dit « vous inquiétez pas, on va mettre les outils en place, vous allez voir ce que vous allez voir ». Vous allez voir ce que vous allez voir, mais on n'a rien vu. Les régions et le gouvernement n'ont pas pris la mesure du risque de crash généralisé du programme. Aujourd'hui, on demande à rencontrer les ministres que les choses se débloquent. On ne va quand même pas renvoyer 700 millions d'euros à Bruxelles.
Comment on va faire pour éviter la catastrophe ? C'est peut-être l'occasion, puisqu'on parle de grand débat national en ce moment, de le mettre sur la table aussi.
Oui, les régions assurent en tout cas qu'elles mettent le paquet. Alors personne, en trois jours, n'a souhaité me répondre en interview. Mais on m'explique, par exemple, qu'en Pays de la Loire, on a embauché 12 personnes. Rien que pour ça, 31 en Nouvelle-Aquitaine. Il y a vraiment urgence. En tout cas, la France est l'avant-dernier pays d'Europe pour le versement de cette aide. Pendant que nous, on se bat pour la verser au Danemark ou en Roumanie, on a déjà tout dépensé et on se bat même pour obtenir des rallonges auprès de Bruxelles.
La course contre la montre pour toucher les aides européennes et les régions sous pression. Merci Théo Manval pour cette enquête. Europe 1 va plus loin. C'est tous les matins à 7h20.
Europe 1. Mais il est 7h22.
À suivre, l'innovation du jour avec Anissa Mbida. Ce matin, peut-être la fin de la pénibilité au travail. Une sorte de squelette mécanique pour aider ceux qui sont obligés de porter beaucoup de poids. On vous dit tout avec Anissa juste après ça.
Il est 7h26. Avant de retrouver Anissa Mbida pour l'innovation du jour, un petit tour du côté de la météo avec Laurent Cabrol, Nicolas.
Dites-nous tout, mon cher Laurent Cabrol. Des températures plutôt clémentes ? Est-ce que c'est le terme ?
Oui, oui, c'est tout à fait le terme. Effectivement, les températures ce matin entre 6 et 13 degrés. Hein, c'est pour un jour d'hiver, c'est pas catastrophique. Ouais. Dans l'après-midi, 7 degrés à Strasbourg, 8 à Lille et Dijon, 9 à Limoges, 10 degrés à Toulouse, Angers, Lyon, Paris, 10 degrés cet après-midi. 11 à Rennes, 12 à Bordeaux, 15 à Marseille, 17 à Nice et 18 à Bastia. Ce matin, il y a pas mal de pluie, mais ça ne va pas durer. Nous aurons dans l'ensemble un temps clément sur une bonne partie de la France, Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin. Ce sera voilé, mais assez agréable. Sur la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, les Deux-Vallées, Garonne et Rhône, sur la région parisienne, un régime d'averse. Sur Lyon aussi. Des averses, mais des averses qui vont cesser cet après-midi. De la pluie assez fréquente sur le Midi-Pyrénées. Je ne vous ai pas parlé de l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Les Alsaciens se disent « et nous ». Eh bien oui, vous aurez un peu de pluie et vous aurez même de la neige à partir de 600 mètres. Et sur les Alpes du Nord, et tout, avec de la pluie en pleine et de la neige à partir de 600 mètres. Voilà, qui est, le bassin méditerranéen, Mistral et Tramontane, souffle encore, 80-90 km.
Lâche pas l'affaire, voilà. Mistral.
Non. Demain, ça ira beaucoup mieux. Hein. Les
Merci.
Exercices seront généralisés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Ce matin, Anissa, une innovation qui devrait intéresser tous ceux qui sont obligés de porter des charges lourdes. C'est une combinaison robotisée qui pourrait réduire la pénibilité au travail.
Oui, c'est ce qu'on appelle un exosquelette. Donc, vous l'avez dit, c'est une combinaison qui est bourrée de moteurs et d'électronique et qui va multiplier votre force par 20. Donc, même si on est assez frêle, on pourra soulever à bout de bras une charge de 90 kg, je ne sais pas moi, une machine à laver. Et en fait, on aura l'impression qu'elle ne pèse que 3 ou 4 kg. Ça veut dire qu'on aura moins de tours de dos, moins d'accidents du travail et surtout des employés qui ne sont pas complètement cabossés au bout de quelques années de travail. C'est une combinaison qui a été mise au point par Sarcos Robotics.
Mais on en parle depuis pas mal de temps de ces combinaisons. Elles sont commercialisées, ça y est ?
Oui, ça commence.
Au grand public ?
Oui, ça commence. On en a longtemps parlé pour les militaires, pour créer des super soldats, ou en médecine pour faire marcher les paraplégiques. Mais c'était soit trop cher, soit pas tout à fait au point. Finalement, c'est dans l'industrie, les usines et les chantiers que ça va arriver en premier. Vous savez quelle sera la prochaine étape ?
Allez-y.
Eh bien, en proposer aussi dans les magasins de bricolage pour éviter de se faire mal quand on fait des travaux à la maison, par exemple.
Ça veut dire que je peux aller dans un supermarché dans quelques temps, acheter une super armure.
Exactement.
Pour lever une machine à laver, c'est ça ?
Exactement. Alors, ce ne sera pas celle de Robocop, ni les armures industrielles dont on a parlé juste avant. Ça coûterait beaucoup trop cher. Non, ce seront des petites combinaisons souples, sans batterie, sans moteur, mais qui maintiendront le dos et qui reposeront vos bras pour pouvoir bricoler comme ça pendant des heures, les mains en l'air, sans se fatiguer et sans se retrouver tout cabossé le lundi quand on rentre au boulot.
Anissa Mbida, le futur à portée de bras, c'est tous les jours à 7h25 sur Europe 1.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. À suivre, Nicolas Aliagas.
À 7h45, Jean-Michel Apathy qui reviendra sur la lettre d'Emmanuel Macron présentée aux Français. Et puis à 7h43, Axel de Tarlé. Attention, la crise des gilets jaunes pourrait bien faire perdre à Paris son attractivité financière. On vous dit tout. Merci d'écouter Europe 1. Excellent réveil à tous.
Nous sommes le lundi 14 janvier. Et 7h30 sur Europe 1.
Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. 12 immeubles du quartier de la rue de Trévise à Paris, toujours inaccessibles 48 heures après la violente explosion qui a dévasté plusieurs appartements et magasins samedi. 4 personnes sont mortes. Le corps d'une femme a été retrouvé hier dans les décombres. Parmi les victimes également une touriste espagnole, maman de 3 enfants. Elle était en week-end avec son mari qui a été grièvement blessé. 2 pompiers sont aussi décédés, dont l'un âgé de 27 ans, Nathanaël Josselin. Il avait débuté dans une caserne de Lyon. Son mentor parmi les pompiers, le lieutenant Roy, qui est aussi son beau-frère, se souvient du petit garçon qu'il était, fasciné par les pompiers.
Très vite, il a voulu venir avec moi au centre de secours, voir les camions rouges. Et quand il a eu l'opportunité à ses 12 ans de pouvoir intégrer l'école de jeunes sapeurs-pompiers, il les a intégrés. Par la suite, on a émis l'idée de créer une section jeunes sapeurs-pompiers. Donc Nathanaël a été l'un des premiers formateurs à venir tous les samedis matins pour encadrer ces jeunes. Et c'est un exemple pour eux. Il était papa d'un petit garçon de 4 ans là, qui laisse tout seul aujourd'hui. Du coup.
Si vous vouliez lui rendre hommage aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Juste que je suis fier de lui.
Le lieutenant Roy, joint par Aude Vernuccio, la cagnotte de soutien ouverte pour les familles des deux pompiers, atteint ce matin plus de 168 000 euros.
Et notez qu'à 7h45, je serai en compagnie du porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'avec le maire d'Entremont-le-Vieux, où était originaire Simon Cartanaz, le pompier de 28 ans tué dans l'explosion. La lettre promise par le président de la République aux Français le 31 décembre dernier est donc publiée ce matin partout dans la presse.
Un long texte où le chef de l'État pose 34 questions en vue du grand débat qui va débuter demain en réponse à la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron invite les Français à formuler des propositions. J'entends transformer avec vous les colères en solutions, dit-il. Du côté de l'opposition, chez les Républicains, les adhérents et les sympathisants vont être poussés à participer massivement au grand débat, même si pour le député de Moselle, Fabien Di Filippo, le chef de l'État aurait dû commencer par un mea culpa.
Sur tous les thèmes qu'il liste, que ce soit le réchauffement climatique, la dépense publique, etc., etc., il a obtenu des résultats qui, depuis le début du quinquennat, sont négatifs. Ça veut dire qu'il aurait dû reconnaître qu'il s'est trompé. Pour pouvoir, à un moment donné, avancer, il faut reconnaître ses erreurs. Donc le débat, à mon avis, il est un peu mort-né avant d'avoir commencé.
Un pessimisme et méfiance également du côté de la France insoumise. Pour Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, les questions posées ne laissent pas espérer un vrai débat.
Il oriente les questions de façon à ce que les réponses soient celles qu'il souhaitera. Voilà ce que je crois. Emmanuel Macron parle de réforme fiscale, mais n'envisage que la baisse de la fiscalité. Il parle de services publics, mais il n'envisage que la baisse des dépenses publiques. Il y a d'un côté un débat, et de l'autre côté, M. Macron qui annoncera les décisions en avril. Donc, on a quand même un peu l'impression que c'est le peuple débat et Jupiter tranche.
Mon propos recueilli par Adrien Beck pour Europe 1, cette lettre du président de la République, vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site europe1.fr. Notez qu'Édouard Philippe va publier aujourd'hui un communiqué pour clarifier l'organisation technique du grand débat, dont le coup d'envoi sera donc donné demain lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'heure où il s'exprimera devant 600 maires.
Et la journée de samedi a de nouveau été maillée par des violences alors que c'était le premier week-end des soldes.
Oui, d'ailleurs le bilan est mitigé et les commerçants en ont assez. Écoutez le président de la Fédération des commerçants indépendants très remonté contre les Gilets jaunes.
Oui, les commerçants qui commencent à dire ras-le-bol, il faut que ça s'arrête. Et quand les Gilets jaunes me disent « Oui, mais nous, on est pour les petits commerçants », alors je dis non, mesdames et messieurs, les Gilets jaunes, avec tout le respect que je vous dois, non, vous n'aidez pas le petit commerce, vous êtes en train de l'enfoncer et certains commerçants, ils vont fermer. Pour ce début d'année 2019, ce n'est quand même pas réjouissant.
Francis Palombi, joint par Maud Descamps pour Europe 1. Dans l'actualité ce matin, la femme de Carlos Ghosn demande à une ONG des droits de l'homme de se pencher sur le cas de son mari. Elle dénonce le traitement sévère qui lui serait réservé en prison au Japon. Et puis l'ex-activiste d'extrême gauche, Cesare Battisti, va arriver en Italie en fin de matinée. Il a été remis hier par la Bolivie aux autorités italiennes après son arrestation.
Europe 1, il est 7h34.
Ouverture aujourd'hui du procès de 2 policiers de la BRI du 36 quai des Orfèvres.
Ils sont accusés du viol en réunion par une touriste canadienne, des faits qui remonteraient à avril 2014 dans l'ancien siège de la PJ parisienne. Pour l'avocate de la plaignante, la question de ce procès sera celle du consentement.
Elle demande justice parce qu'elle n'a jamais menti et qu'elle a été traînée dans la boue. Et qu'on a dit d'elle, et qu'on continuera à dire d'elle, que c'est une menteuse, une folle, une hystérique. Donc c'est un débat très douloureux qui va s'engager. Bien sûr qu'il y a les clichés sur le viol qui vont être débattus, à savoir est-ce qu'une femme seule à Paris peut se promener et vivre à sa guise, aller et venir en étant habillée de façon féminine ? Est-ce qu'elle a le droit de boire ? Et est-ce qu'elle peut librement consentir quand elle le désire ? et dire non quand elle ne le désire pas et être considérée à ce moment-là comme une victime. C'est la question.
Maître Sophie Obadia au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. La suite du championnat du monde de handball, la France affronte ce soir la Corée unifiée à 20h30 quand la diplomatie s'invite dans le sport. Tout un symbole pour Guillaume Gilles, coach adjoint des Bleus.
C'est un beau symbole que la Corée puisse se retrouver unifiée pour participer à un mondial en Allemagne. Je trouve ça génial. Ça illustre aussi la place que peut avoir le sport plus largement dans nos sociétés. Et le rôle qu'il peut jouer dans le faire ensemble, dans la manière que les peuples peuvent avoir pour porter des projets en commun.
Guillaume Gilles avec Christophe Lamarre.
La sortie aujourd'hui du single des Enfoirés, ils vont célébrer leurs 30 ans de tournée au profit des Restos du Cœur.
Et la chanson s'intitule « On trace », écrite et composée par Vianney.
On trace.
Belle chanson d'ailleurs. Un CD ou DVD acheté, ce sont 17 repas offerts pour la cause des Restos du Cœur. À soutenir. Merci Céline Kalman pour le journal de 7h30.
Oui, on lit vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 comme Jean-Seb hein, qui remercie Théo Manval pour ce reportage sur 700 millions d'aides européennes non versées, révélateur des lourdeurs administratives de notre pays. Un reportage que vous pouvez réécouter sur europe1.fr.
Europe 1.
Et il est 7h36.
À suivre, politique avec Jean-Michel Apathy, la lettre du président à la une.
Oui, la lettre du président pour le débat qui va commencer demain et qui va durer jusqu'au 15 mars.
Et puis l'économie avec Axel de Tarlé, on va parler du Brexit et un vote crucial.
Ah bah oui, c'est demain. Les Britanniques les députés vont devoir dire si oui ou non ils sont d'accord pour signer l'accord. Ah, suspense.
Apathy, Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1. Bonne journée à tous.
Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et nous avons lu hier soir la lettre qu'Emmanuel Macron a décidé d'adresser aux Français. Une lettre qui trace le contour du grand débat national. Qu'en avez-vous retenu, Jean-Michel Apathy? Bonjour.
D'abord que c'est une offre assez spectaculaire que fait Emmanuel Macron, au fond. C'est un débat global qui nous est proposé. On pourra parler de l'écologie, de la fiscalité, de l'immigration, des institutions politiques, de l'organisation de l'État. Aucune démocratie occidentale ne s'est jamais livrée à ce type d'exercice. Convoquer tous ses citoyens pour débattre de l'ensemble des problèmes de la société, bon, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Mais en même temps, quand on lit la lettre, qu'on voit par exemple les questions que suggère Emmanuel Macron dans ce débat, on comprend bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Emmanuel Macron liste une trentaine de questions, c'est pas exhaustif, il y en aura plus éventuellement si les gens le souhaitent. J'en ai pris trois pour illustrer mon propos. Comment voudriez-vous, demande Emmanuel Macron, que l'État soit organisé? Comment pourrait-on rendre la fiscalité plus juste? Que proposez-vous pour répondre au défi de l'immigration qui va durer? Des questions aussi générales sont écrasantes pour les citoyens. Ça n'est injurier personne de dire qu'elles les dépassent nettement. Par exemple, comment faut-il que l'État soit organisé? Bon, au fond, on n'en sait rien. Ce qu'on constate, c'est que, ou l'impression que l'on a, c'est que l'État ne marche pas très bien, qu'il coûte très cher. Oui. Donc il faut changer quelque chose. Mais quoi? C'est aux responsables politiques de nous le dire. Or là, on inverse la proposition. Pourquoi Emmanuel Macron inverse-t-il la proposition? Parce que le gouvernement est bloqué. Parce qu'il ne peut plus rien faire sans susciter des oppositions qui l'empêchent d'agir. Et ce que révèle en fait ce grand débat, c'est l'immense malaise politique et démocratique dans lequel nous sommes. Emmanuel Macron dit, le débat, puisqu'il va durer jusqu'au 15 mars, j'en tirerai les conclusions un mois plus tard, le 15 avril. Là aussi, ça paraît logique, mais il faut essayer de concrétiser la situation. Sur beaucoup de points, peuvent émerger des demandes de la part des citoyens qui sont contraires à la politique que le gouvernement mène depuis 18 mois. Ça peut être le cas sur les 80 km/h, l'impôt sur la fortune, ça peut être le cas sur le SMIC, sur les retraites. Le gouvernement veut réformer les retraites, peut-être reculer l'âge de départ à la retraite, et peut-être que les citoyens diront « mais non, on ne veut pas ». Que va faire Emmanuel Macron dans ce cas-là? Est-ce qu'il est imaginable qu'il applique des solutions auxquelles il ne croit pas? Non, c'est stupide. S'il n'y croit pas, il ne doit pas les appliquer. Mais est-ce qu'il a les moyens de refuser ce qui pourrait émerger de manière majoritaire du débat? Autrement dit, quelle est la légitimité qui serait la plus forte? Celle d'Emmanuel Macron élu en mai 2017 ou celle des citoyens réunis dans ce grand débat? Est-ce que ce grand débat ne peut pas poser, à la fin des fins, la question de la légitimité du président de la République? Ce débat, il a été inventé, sans trop de réflexion, pour répondre à la crise des Gilets jaunes.
Est-ce qu'il avait le choix
de faire ce débat ou pas? Oui. Il a décidé de le faire. Est-ce qu'il en a mesuré toutes les implications, notamment le concernant lui, concernant sa légitimité pour résoudre la crise des Gilets jaunes. Ça n'est pas sûr, c'est sans doute un beau débat qui s'annonce, mais plein de surprises.
Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40 sur Europe 1. Axel de Tarlé, un mot sur cette lettre d'Emmanuel Macron dont on parle ce matin. Sur le plan économique, qu'avez-vous retenu?
Oui, parce que justement, je trouve que sur la question économique, le débat est ouvert, mais il le referme très vite. Il le dit, on garde la politique pro-entreprise, on n'aurait pas question de rétablir l'ISF. Et alors, il dit autre chose aussi, je trouve, en filigrane, quand il dit « En France, les citoyens payent des impôts sur le revenu, parfois très lourds », l'air de dire « On ne va pas en rajouter ». Et donc, il referme la porte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Il faudrait créer une nouvelle tranche d'imposition pour les hauts revenus ». C'est l'idée notamment de Laurent Berger. Eh bien, en lisant cette lettre, il dit « Non, l'idée, c'est de baisser les impôts. Il y a trop d'impôts en France. On comprend bien que cette idée de relever les impôts pour les plus riches au nom de la justice, de la cohésion fiscale, eh bien, cette idée est refermée. Il n'y aura pas, moi j'ai l'impression, de nouvelles tranches d'imposition sur les plus hauts revenus. »
Parlons de l'actualité qui concerne nos voisins britanniques. J-1 pour le Brexit, Axel de Tarlé. C'est demain que les députés britanniques votent pour ou contre l'accord de la sortie de l'Union européenne.
Et ta-ta-ta, on connaît déjà la réponse. Ils l'ont déjà dit, les députés voteront contre. Donc, on ne sait toujours pas où on va, mais on est maintenant à 2 mois du Brexit, parce qu'il y a une date officielle. Le vendredi 29 mars à 23h, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Où va-t-elle? On ne sait pas. Alors, les patrons britanniques disent on va vers une catastrophe parce qu'ils craignent des ruptures d'approvisionnement dans leurs usines avec des files d'attente interminables aux frontières.
Quelles conséquences concrètes pour la France? On a dit ces derniers mois que les banquiers de la cité allaient s'installer en France, se replier à Paris. Voilà, on a dit que le prix de l'immobilier est en train de flamber à cause de ça. On en est où alors?
Alors exactement. Alors l'idée que les banquiers de la cité allaient venir à Paris, on l'a beaucoup dit. On l'entend moins ces jours-ci, ces derniers temps. Il faut dire que les gilets jaunes sont passés par là. Et c'est vrai que ces manifestations à Paris donnent l'image d'une France en pleine guerre civile et qui s'en prend spécialement aux banquiers, à la mondialisation et aux plus riches. Donc, mettez-vous à la place des banquiers de la City, à Londres, ils peuvent se sentir un peu visés et préférer du coup déménager, puisqu'ils ont le choix, à Francfort ou Amsterdam, plutôt qu'à Paris. Et puis, il y a une deuxième chose, on vient d'en parler. En France, on débat beaucoup, vous voyez, sur la fiscalité. Tout cela alimente les craintes. En fait, tout le travail d'Emmanuel Macron pour présenter le visage d'une France stable et attractive, tout ce travail a été effacé. Et justement, Nikos, figurez-vous que le chef d'État va recevoir à Versailles, lundi prochain, juste avant Davos, une centaine de grands patrons internationaux. Il y aura le patron de Toyota, de Goldman Sachs, etc. L'objectif, c'est les rassurer, les convaincre d'investir en France. Bon, très bien, un détail. Sur le plan du symbole, la date n'est pas terrible, puisque lundi prochain, figurez-vous que nous serons le 21 janvier, soit le jour anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Et je vous rappelle que cette réunion internationale a lieu à Versailles. Autant dire qu'on risque de voir passer des fantômes dans le château de Versailles.
Ouais, parce que Louis XVI a été guillotiné effectivement le 21 janvier 1793, mais c'était Place de la Concorde.
Voilà, à l'époque, on appelait ça Place de la Révolution.
Exactement. C'était le Zoom Echo avec Axel de Tarlé, tous les jours présenté à 7h43 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h45, Nikos Aliagas à suivre.
Alors évidemment, c'est le drame qui a ému toute la France peu avant 9h du matin samedi, rue de Trévise à Paris. Une terrible explosion a fait 4 victimes, dont 2 jeunes sapeurs-pompiers, plus de 50 blessés. Dans un instant, je vais recevoir le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que Jean-Paul Claret, le maire de la commune dont était originaire l'une des 2 victimes. A tout de suite sur Europe 1.
Et de 7h47, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Emmanuel Macron a rendu publique la lettre aux Français qu'il avait promise le 31 décembre dernier. Le chef de l'État parie désormais sur le dialogue pour sortir de la crise et transformer les colères en solutions. Il propose de baliser le débat avec une trentaine de questions, portant sur 4 thèmes déjà fixés comme la démocratie, la transition écologique, la fiscalité ou l'immigration. L'ex-activiste d'extrême gauche Cesare Battisti, remis hier par la Bolivie aux autorités italiennes à Santa Cruz, il se trouve en ce moment dans un avion envoyé depuis Rome pour son transfert. Pour son transfert, football dans un stade vélodrome très hostile à ses joueurs, l'Olympique de Marseille a terminé 1-1 face à Monaco.
Europe 1. Nikos Aliagas, retour sur l'explosion samedi matin d'un immeuble de la rue de Trévise à Paris qui a fait 4 morts, dont 2 jeunes pompiers. Vous recevez ce matin le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.
Et nous rejoindrons dans un instant le maire d'Entremont-le-Vieux, le village dont était originaire l'un des 2 pompiers décédés ce week-end. Mais tout d'abord, bonjour lieutenant-colonel Gabriel Plus.
Bonjour.
Vous êtes aussi sur le terrain, vous êtes porte-parole et vous travaillez aussi sur le terrain, toujours?
Oui, en tout cas, on a une expérience opérationnelle. On est tous impliqués dans la sollicitation opérationnelle et parfois, évidemment, sur des situations assez dramatiques comme celle-là et tout ce qui est opération significative, Il faut prendre en compte les médias, expliquer la situation.
Décrypter
la situation aux personnes telles que les élus, et sur Paris ça va très vite.
Sauver ou périr, hein, jamais la devise des pompiers de Paris n'a été aussi juste et d'actualité. Nathanaël Josselin, 27 ans, Simon Cartanaz, 28 ans, ils sont morts samedi. Ils ont mis leur vie en jeu pour secourir d'autres. Est-ce qu'on en sait un peu plus quant aux causes exactes de la déflagration? Que dit l'enquête jusqu'à présent?
Alors oui, il y a une enquête en cours. On a des équipes de reconnaissance et qui vont établir les causes, les conséquences de cet incendie avec le laboratoire central de la préfecture de police. Il est trop tôt pour déterminer ces causes. Toujours est-il qu'on sait que, à peine présenté, quelques minutes après, alors que les 6 pompiers qui se présentent à l'adresse figent le risque, demandent aux habitants de ne pas quitter leur logement, c'est-à-dire d'être confinés, peu de temps après, une explosion survient. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces 6 camarades, dont le caporal-chef Cartanaz, dont le premier clash Josselin, ont permis de sauver plusieurs vies, parce qu'ils ont demandé à ces résidents de rester dans leur logement. Ils ont senti cette situation un peu anormale. Ça, c'est l'expérience opérationnelle qui le montre. Le caporal-chef Cartanaz était engagé lors des attentats du 13 novembre. Donc l'ambiance chaotique, une situation qui peut être défavorable, on le sent. Un regard, un silence, et puis cette odeur de gaz qui est là depuis plusieurs heures. Donc ces poches de gaz qui n'attendent qu'une étincelle, et cette étincelle malheureusement survient. Donc il y a eu des vies sauvées, on le voit hein, sur les images, hein, un certain nombre de vies qui sont sauvées. L'explosion ayant eu lieu, eh bien 3 de nos camarades restent à terre, mais pour autant, ceux qui sont tout de suite arrivés derrière prennent en compte des personnes, les sauvent par les échelles, par la façade extérieure, dressent un périmètre de sécurité, établissent les moyens pour contenir l'incendie, parce que la fuite de gaz, elle est enflammée, et il ne faut pas éteindre cette fuite de gaz pour éviter que d'autres poches de gaz ne surviennent et que d'autres explosions surviennent. L'immeuble est fragilisé, il mérite de s'effondrer, mais pour autant, on continue à prendre le risque, malgré un étaiement qui aurait été nécessaire, de rentrer dans l'immeuble, de confiner les gens, de les sauver et de rechercher nos camarades.
Vous avez vu les familles de vos camarades tomber ?
Nous avons reçu les familles de nos 2 camarades. Et là, c'est toute la famille du centre de secours de Château d'Eau qui s'élargit, alors que ça n'était pas prévu. C'est des familles qui nous rejoignent, qui rejoignent notre histoire et qui, depuis samedi, font désormais partie, jusqu'à la fin, pour la fin, de notre famille.
Restez avec nous, lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Au téléphone, j'ai le maire d'Entremont-le-Vieux en Savoie. Bonjour, Jean-Paul Claret.
Bonjour.
Simon Cartanaz avait 28 ans, c'était l'enfant du pays?
Bien sûr, et c'est une très grande émotion et une immense tristesse qui a envahi la commune à l'annonce de cette terrible nouvelle. Puisque Simon, eh bien pour une commune rurale comme la nôtre, c'était un exemple pour son engagement professionnel dans les pompiers, à la brigade des pompiers de Paris. Donc ça, c'est un signe très fort de s'engager au service des autres. Et puis Simon avait un attachement également très très fort à son territoire, puisque à l'occasion de ses séjours sur la commune, eh bien, il était auprès du centre de secours de première intervention de Chartreuse Nord. Et là, au milieu de ses camarades, eh bien, il donnait l'exemple également de son engagement.
Il venait d'une famille de pompiers, son père, l'une de ses sœurs, je crois, son oncle. Quelle image vous retenez de Simon Cartanaz aujourd'hui?
Eh bien, pour moi, Simon Cartanaz, c'était vraiment l'exemple de la jeunesse d'aujourd'hui. Cette jeunesse qui veut s'engager au service des autres, cette jeunesse qui brille par son comportement. On peut voir la détresse qui a saisi tous ses camarades du centre de secours. Et pour eux, eh bien, je crois qu'il faudra beaucoup de solidarité, beaucoup d'appui pour pouvoir faire passer ce moment absolument terrible.
Monsieur le maire, merci de faire part de nos condoléances et notre amitié à sa famille et aux habitants d'Entremont-le-Vieux. Merci d'avoir été avec nous au téléphone.
Eh bien, je vous remercie.
Lieutenant-colonel Gabriel Plus, vous êtes le porte-parole des pompiers de Paris, des sapeurs-pompiers de Paris. Comment est-ce qu'on remet les troupes en marche après ça, quand on est sonné, quand on vit et qu'on partage un deuil au quotidien?
Oui, c'est toute la communauté, hein, c'est tous les pompiers de Paris, les 8500 militaires de la brigade qui sont dans la douleur, dans la peine. Mais pour autant, vous savez, c'est dans les situations dramatiques comme celle-là que la solidarité est renforcée. C'est dans cette situation-là que l'amitié est resserrée. C'est dans ces situations dures. Alors autant dans notre famille des pompiers de Paris, mais autant sur la scène de chaos de la rue Trévise, on a pu constater la solidarité de personnes qui vont au-devant de personnes qu'elles ne connaissent pas et qui prêtent leur aide. Et donc dans notre pays en ce moment un peu clivé, en recherche de repères, bah, je peux vous dire que la solidarité, la générosité, l'engagement, il est porté par des jeunes que sont les pompiers de Paris, parce que ce sont des jeunes. On a le statut militaire, la moyenne d'âge c'est 27-28 ans. 27-28 ans, on est capable de donner sa vie.
C'est par idéal qu'ils deviennent sapeurs-pompiers. Vous parlez de solidarité, il y a cette cagnotte aussi qui a été mise en place. Elle ne dépend pas des pompiers de Paris, tout de même. On est à un peu moins de 170 000 euros récoltés pour les familles. Ça veut dire quelque chose ?
C'est encore une fois la concrétisation de cette solidarité. Ce pot commun mis en place, effectivement, est touchant. C'est la preuve que notre société est capable de générosité. C'est la preuve que notre société elle est capable de comprendre que donner du sens à sa vie, ma foi, peut conduire une existence. Et je peux vous dire que les hommes en bleu, les soldats de la brigade aujourd'hui sont fiers de leurs camarades qui ont donné un sens à leur existence. Alors c'est une terrible devise que celle de sauver ou périr. C'est rare de donner sa vie. Mais aucune intervention des bananes, aucune des 1500 interventions quotidiennes des pompiers de Paris sur Paris et la petite couronne n'est banale.
Acceptez notre respect ce matin au nom d'Europe 1. Et on voulait rendre hommage à Simon Cartanaz et Nathaël Josselin et à tous ceux qui travaillent quotidiennement, 248 000 pompiers en France. Merci d'avoir été avec
Merci.
Nous.
Merci.
Europe 1, il est 7h56.
Dans le journal de 8h, la réaction des Gilets jaunes à la lettre d'Emmanuel Macron, puis juste avant la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. On va partir à Londres, histoire d'aller chercher des ondes positives. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Tous les jours, avec Jean-Philippe Ballas, on essaie de découvrir une petite histoire pour voir le monde différemment. Et ce matin, on va partir à Londres, justement, dans l'univers des rockstars. Il y a aussi des querelles de voisinage.
Absolument. Bienvenue sur le ring, les amis. À ma droite, Jimmy Page, 75 ans, guitariste mythique du groupe que vous entendez actuellement.
Je l'adore.
Led Zeppelin. Jimmy Page, également propriétaire d'un somptueux manoir, bâtiment classé du 19e siècle. À ma droite, c'est lui, Robbie Williams, 44 ans, chanteur fantasque, tatoué, parfois déjanté, et qui veut faire construire une piscine souterraine dans sa villa. C'est vrai que c'est plus pratique. Sauf que son voisin, Jimmy Page, il a peur que les travaux ne viennent tourmenter les fondations de sa noble demeure. Ça aussi, ça se comprend. Bref, c'est tendu entre ces deux-là et le dernier épisode en date est plutôt savoureux. La presse anglaise ce week-end racontait que Robbie Williams se met la musique à fond dès qu'il aperçoit Jimmy Page aux abords de sa propriété. Mais attention les amis, pas n'importe quelle musique. Oui, Robbie Williams prend soin de ne choisir que des groupes rivaux de Led Zeppelin dans les années 70. Alors il y a Deep Purple, il y a Pink Floyd, AC/DC, de quoi agacer forcément les oreilles sensibles de Jimmy Page. Un riverain raconte même que Robbie Williams se déguise avec une perruque et un oreiller sous la chemise pour bien se moquer des gloires du rock vieillissante. Sacrilège et démenti formel de l'entourage de Robbie Williams qui dénonce une machination. Tout ça pour vous dire que ces gens-là aussi ont des problèmes quotidiens, mais vous savez quoi ? Quitte à ne pas faire dans la dentelle, on préférera toujours un bon vieux cachemire.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire très rock, c'est tous les jours avant 8h. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les deux, dont Jimmy Page. Effectivement, quand on rencontre Jimmy Page, on a l'impression qu'on va retrouver quelqu'un qui n'a pas fumé que la moquette, un peu déjanté.
Il est très classe.
Voilà. Mais en fait, il est classe, il fait très lourd et boit du thé vert.
Que
sont devenus les lettres, les gamins?
En même temps, ça va bien avec un manoir du 19e. Hein.
Voilà, sûr. Exactement. Merci Jean-Philippe Ballas.
Assis pour le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Vous êtes plutôt Robbie Williams ou Jimmy Page, mon cher Laurent Cabrol?
Les deux.
Je suis plutôt Météo France.
Ah ouais. Météo France. Allez, on y va.
Non, Johnny Pen. Alors, ah oui, tout de suite.
Johnny Pen.
Si vous le permettez, tout de suite. Bretagne, Normandie, Val-de-Loire, Poitou-Charentes et Limousin, c'est voilé, mais agréable. Picardie Nord, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Auvergne, Vallée de la Garonne et Vallée du Rhône, ce sera de la pluie aujourd'hui, des pluies sous forme d'averses comme la région parisienne et la région lyonnaise, et puis de la neige sur le flanc est, Alsace et Franche-Comté, en Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures 7 à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Limoges, 10 à Paris, 11 à Rennes, 12 à Bordeaux, 15 à Marseille et 18 à Bastia. Voilà, j'ai fini.
Quelle est votre chanson préférée de Jimmy Page? Bon, dites-moi.
À tout à l'heure.
Oui. Merci d'avoir choisi un repas. Il est 8h. Bon réveil à tous. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le journal présenté par David Decamp, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Un président de la République qui pose des questions à ses compatriotes. C'est l'originalité de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Page complète dès le début de ce journal. La terrible explosion samedi matin à Paris était vraisemblablement due à une fuite de gaz. Le réseau gazier de la capitale est-il en bon état? Faut-il s'inquiéter? Enquête Europe 1 dans cette édition. Recevoir un virement de la part du fisc, on n'en a pas l'habitude. C'est pourtant ce qui va se passer demain pour un peu moins de 9 millions de foyers. C'est un acompte sur crédit d'impôt conséquence du prélèvement à la source.
Europe 1.
Ouvrons tous ensemble notre courrier ce matin. Elle était attendue, la lettre signée Emmanuel Macron qui vise à définir le grand débat national. Ni une élection, ni un référendum, écrit le chef de l'État. Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous suivez l'Élysée pour Europe 1. Le président de la République nous soumet une liste de questions.
Oui, en tout une trentaine de questions posées par Emmanuel Macron. Des thèmes qui lui ont été inspirés par les remontées des premiers cahiers de doléances, par exemple. Comment rendre la fiscalité plus juste, plus efficace? Comment l'État peut améliorer son action? Comment finance-t-on la transition écologique? Ou encore, faut-il reconnaître le vote blanc? Mais le président va au-delà des revendications classiques des gilets jaunes. Il lance des sujets plus sensibles, plus polémiques. Il interroge par exemple sur la laïcité, l'immigration, proposant à demi-mot des quotas. Des questions pour ouvrir le débat, pour, je cite, « transformer les colères en solutions pour clarifier notre projet national et européen », écrit Emmanuel Macron.
Le président trace aussi quelques lignes rouges, les réformes qui ont été votées depuis mai 2017, en particulier celles de l'impôt sur la fortune, n'ont pas vocation à être remises en cause. Restez avec nous, Jean-Rémy, pour écouter la réaction de Cédric Guémy, qui arbore un gilet jaune depuis le début de la crise. Il est l'un des porte-parole du mouvement Gilets jaunes libres. On l'écoute.
Pour moi, c'est pas du tout concret. Il ne détaille pas comment va être synthétisé tout ça. Tout le monde va pouvoir s'exprimer, oui, mais comment? Est-ce que c'est par les cahiers de doléances? Certains cahiers de doléances ont déjà été remontés par les maires aux préfets. Qu'est-ce qu'il en advient? Ça, c'est la grande question.
Alors, essayons d'y répondre à cette incompréhension. Que va-t-il se passer, Jean-Rémy, après le débat, précisément?
Eh bien, Nikos, dans sa lettre, Emmanuel Macron promet, je cite, d'en rendre compte directement dans le mois qui suivra à la fin du débat. Pour le reste, de vous à moi, c'est encore un peu flou. Certains espéraient que le président s'engage sur un référendum. Ils ont dû être déçus. Techniquement, l'organisation concrète, les modalités du débat, elles seront présentées d'ici ce soir par Édouard Philippe, notamment les remplaçants de Chantal Jouanneau. Je peux déjà vous dire que certains ministres seront en première ligne, notamment Sébastien Lecornu pour les relations avec des maires. Des maires qu'il va falloir rassurer, car on a entendu à l'instant Cédric, le gilet jaune, qui s'interroge sur l'issue du débat. Eh bien, sachez que les très nombreux maires que j'ai pu rencontrer ces derniers jours, ils se posent exactement la même question.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, merci à vous Jean-Rémy.
Et vous retrouvez l'intégralité de la lettre du président Macron sur notre site internet europe1.fr.
Et alors Nikos, Jean-Rémy Baudot nous parlait des maires. Oui. Et bien justement, Emmanuel Macron va à leur rencontre. Dès demain, il sera à Grand-Bourgtheroult dans l'Eure. Il s'exprimera devant 600 élus locaux et ce sera le début officiel du grand débat.
Les suites du terrible accident qui a endeuillé Paris samedi matin.
Oui, l'explosion d'une boulangerie dans le 9e arrondissement. 4 personnes ont été tuées, dont 2 sapeurs-pompiers. On déplore aussi une cinquantaine de blessés. C'est vraisemblablement une fuite de gaz qui a causé le drame. Hier, des questions ont commencé à être posées sur la qualité du réseau gazier de la capitale. Est-il bien entretenu? Faut-il s'inquiéter? Enquête Europe 1, signé Mathieu Bock.
À Paris, l'âge moyen du réseau est de 28 ans, soit 3 ans au-dessus de la moyenne nationale. De quoi inquiéter Alexandre Vesperini, conseiller de Paris et membre de la commission de contrôle du gaz.
Je pense que la situation est préoccupante à certains endroits. Il y a 5000 incidents par an qui sont liés au gaz à Paris. Il y a 3 ans, dans le 6e arrondissement où je suis élu, nous avons connu une explosion qui ressemble fortement à cette explosion, qui est une explosion due beaucoup à une poche de gaz qui n'avait pas été identifiée. Moi, en tant que Parisien, je voudrais savoir si mon appartement, mon immeuble est bien raccordé à un réseau qui est correctement entretenu.
De son côté, Christian Buffet, le directeur exécutif de GRDF, affirme que le réseau est en bon état à Paris et que son entretien est une priorité.
53 millions d'euros investis à Paris en 2017, dont plus de 70% pour la sécurité qui nous ont permis de renouveler 41 km de réseau. On a 26 techniciens qui sont mobilisés tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer un haut niveau de sécurité.
Mais à raison d'une quarantaine de kilomètres par an, le renouvellement complet du réseau prendrait une cinquantaine d'années, puisqu'en tout, ce sont plus de 1900 km de tuyaux qui parcourent toute la ville.
Mathieu Bock pour Europe 1. Et puis, c'est une information Europe 1, un casino braqué cette nuit par un commando armé près d'Alès, dans le Gard. Au moins trois malfaiteurs ont fait irruption dans l'établissement. Ils n'ont pas réussi à accéder au coffre, mais ils ont fait main basse sur les caisses. D'après les premiers éléments, le butin serait d'au moins 30 000 euros. Deux policiers du 36 quai des Orfèvres sont aux assises à partir d'aujourd'hui. Ils sont accusés d'avoir violé il y a près de 5 ans une touriste canadienne dans les anciens locaux de la police judiciaire. Le procès doit durer jusqu'au 1er février.
Europe 1.
Ça va vous faire bizarre. Peut-être que vous allez recevoir ce matin, ou demain plutôt, un virement de la part du fisc. Alors, c'est une avance sur les crédits d'impôt. On vous dit tout, on vous explique pourquoi, juste après ça. Bon réveil à tous sur Europe 1, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Eliagas.
Avec David Doucan pour le journal de 8h. Alors c'est une conséquence du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le fisc va vous faire un virement demain.
Oui, pas tout le monde. Cela concerne 8,8 millions de foyers. Au total, plus de 5 milliards d'euros vont être versés. Il s'agit d'une avance sur les crédits d'impôt. Olivier Samin du service économie d'Europe 1 nous explique tout.
Et oui, c'est pas tous les jours que les impôts vous versent de l'argent. Ça va être le cas si, dans la déclaration que vous avez faite en mai dernier, vous avez par exemple déclaré l'emploi d'une femme de ménage. Cette dépense vous a donné droit à un crédit d'impôt. Eh bien, l'administration fiscale fait le pari que vous avez continué à employer cette personne en 2018 et que vous êtes donc éligible, cette fois-ci encore, à un crédit d'impôt. La somme qu'elle va vous verser demain est une avance. Une avance égale à 60% du crédit d'impôt que vous aviez touché l'an dernier. Le solde, elle vous le versera en même temps que votre avis d'imposition, à la rentrée de septembre. C'est là qu'il faudra être attentif, car si dans les faits, vous avez cessé d'employer votre femme de ménage en 2018, vous devrez rembourser la totalité de la somme que vous allez toucher demain. Alors l'emploi d'une femme de ménage, c'est l'exemple que nous avons retenu pour la démonstration. Mais la règle est la même si vous avez déclaré des dons, si vous avez payé une cotisation à un syndicat, si vous avez employé une nounou, si vous avez financé l'hébergement de vos parents en maison de retraite ou si vous avez investi dans du Pinel, du Duflo ou du Céline.
Les explications d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
On en parle depuis ce matin. Consulter un médecin à distance est désormais officiellement possible en France.
Oui, la téléconsultation est testée depuis un mois avec des résultats satisfaisants. Le service se généralise donc avec 40 000 médecins habilités sur le site internet Doctolib. Écoutez le docteur Luc Lefaber. Il fait partie de ceux qui ont testé le dispositif ces dernières semaines.
Pour une pathologie aiguë de quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors moi, certainement pas. Je m'occupe beaucoup de pathologies chroniques. Par exemple, un enfant qui, en consultation physique, fait une crise d'asthme ou une pneumonie, on a envie, les 24 heures, 48 heures, de savoir un petit peu comment ça se passe. Pour un enfant qui toussait beaucoup, je l'ai fait se dévêtir, là, devant la caméra, pour regarder un petit peu comment il respirait, pour l'entendre tousser. Et ça m'a permis d'adapter le traitement, augmenter les doses de tel ou tel médicament. Et puis, docteur, j'ai plus de tel médicament, est-ce que vous pourriez m'envoyer l'ordonnance ? Ces téléconsultations apportent clairement un plus.
Le docteur Luc Lefaber était avec Aude Vernuccio. Le ton monte entre Washington et Ankara. La Turquie a assuré ce matin qu'elle continuerait de combattre une milice kurde de Syrie. Donald Trump avait pourtant précédemment menacé de, je cite, « dévaster l'économie turque en cas d'attaque sur les Kurdes après le retrait américain de Syrie ».
Prenons maintenant des nouvelles des stars du Paris Saint-Germain, David Doucan.
Oui, des nouvelles, c'est le mot, parce que les footballeurs sont en ce moment bien loin de Paris. Ils sont arrivés hier à Doha, au Qatar, pour un stage de 4 jours. Et il faut bien le dire, il s'agira davantage de marketing que de football, comme nous l'explique notre envoyé spécial sur place, Julien Froment.
L'opération séduction a débuté dès hier soir. Arrivé à 19h30 heure locale, les joueurs du Paris Saint-Germain, malgré les 6 heures de vol, se sont prêtés au jeu des selfies et autographes. Une quarantaine de Qatariens les attendaient au pied de leur hôtel. Abdellah, téléphone à la main, est comblé. Il a pu faire poser toutes les stars parisiennes avec lui.
J'ai pu faire des selfies avec Gigi Buffon, Neymar, Mbappé, Cavani et Angel Di Maria. C'est un rêve pour moi de voir ces gars-là. Je les regarde à la télé. C'est vraiment très spécial pour moi.
Un stage express de 4 jours où il sera plus question de marketing que de football. Paris doit mettre en valeur ses relations fortes avec ses sponsors qatariens. Cela passera par plusieurs événements. Rencontre avec les fans, visite d'un stade de la Coupe du Monde 2022 ou encore sortie dans le désert. Tout est bon pour promouvoir l'image du Qatar. Et le football dans tout ça, eh bien, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel a déjà prévu 5 entraînements car il n'oublie pas que Paris a un match à jouer en fin de semaine contre Guingamp en championnat. Doha, Julien Froment, Europe 1.
Et puis, pour conclure, un résultat hier soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Marseille a fait match nul à domicile, un partout, face à l'avant-dernier du championnat, l'AS Monaco.
Merci David Doucan, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
J-1 à Londres. Demain, les députés voteront pour ou contre l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May et les bookmakers ne lui donnent pas une chance sur 10. Hein.
Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline. Il y a des divorces qui sont des amputations, mais le Brexit est une automutilation. La formule est Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, pour une fois inspiré, mais encore trop optimistique. Car si demain, la Chambre des communes vote contre le plan péniblement négocié par Theresa May, s'ils choisissent le Brexit sans accord, eh bien, ce sera une boucherie, un arrachement sans anesthésie. Les Anglais voulaient contrôler leur immigration, trop de plombiers polonais. Ils refusaient que des juges sans visage et sans perruque, ceux de la Cour européenne de justice qui siège au Luxembourg, c'est-à-dire nulle part, eh bien, leur imposent aux tribunaux britanniques, comme au temps des colonies, leurs propres lois. Ils voulaient surtout s'affranchir des petits hommes gris de la Commission et ces reproches trop ressassés comme dans les vieux couples auraient mérité un peu d'écoute et peut-être aurait-on pu sauver le ménage en proposant un nouveau contrat. Ouais. L'avenir dira si la Commission a eu raison de traiter les Brexiteurs comme des gilets jaunes, intraitables dans le marchandage, insultant l'avenir. Les Anglais vont se tailler, mais dans le vif.
Theresa May qui a imploré les députés, il est temps d'arrêter de jouer, a-t-elle dit, avant de compléter et de faire ce qui est juste pour notre pays.
Oui, les ultras du Brexit et du Remain, les travaillistes aussi veulent humilier Theresa May, la battre, la punir. Elle jure qu'il n'y a pas d'alternative et reconnue, que c'est son accord ou pas d'accord du tout, qu'il n'y aura pas le temps de renégocier, qu'il va pleuvoir des grenouilles. Le no deal, les Britanniques n'y croient pas. Ils savent que l'Europe, c'est comme à la foire. On adore s'y faire peur, on crie à la catastrophe, mais on descend indemne des montagnes russes ou du train fantôme. C'est comme le Palais des Glaces, on se croit dans une impasse face au dilemme insoluble, et puis Bruxelles trouve une issue de secours, et les diplomates ont toujours un tapis pour glisser la poussière dessous.
Les Français, en tous les cas, les Allemands croient eux aussi à la magie.
Oui, demain, ils ont rendez-vous avec la chapelle chez Charlemagne, il faut au moins ça. Un demi-siècle après, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont mimer Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, les grands anciens avait conclu le traité de l'Elysée au sortir de la guerre pour jeter la rancune à la rivière. Qu'est-ce que leurs lointains successeurs vont bien pouvoir jeter dans le Rhin pour sceller une nouvelle alliance, notamment sur le plan de la défense ? Eh bien, ils vont jeter des bouées pour éviter le naufrage aux élections européennes. Theresa, Angela, Emmanuel sont des enfants de l'Europe. Ils croient encore qu'elle peut les sauver, les protéger quand tout va mal à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement le contraire.
Vincent Hervouette sur Europa.
Europe 1, il est 8h15.
Audrey Crespo-Mara, qui est votre invité dans moins d'une minute sur Europe 1
hein. Mon invité a quitté Laurent Wauquiez pour Marine Le Pen. Il sera numéro 3 sur la liste du Rassemblement National pour les Européennes. Marine Le Pen a lancé sa campagne hier. Emmanuel Macron lui a envoyé sa lettre aux Français. Nous en parlerons avec Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy.
Ce sera l'interview politique juste après ça, tout de suite.
Il est 8h18, Nico Saliagas.
L'ancien ministre et candidat Rassemblement National aux Européennes, Thierry Mariani, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
Chez les Républicains, vous étiez devenu un vilain petit canard, tandis qu'au Rassemblement National, vous êtes assuré d'obtenir un poste de député européen, numéro 3 sur la liste. Changer de parti, c'était la seule manière de relancer votre carrière ?
J'étais devenu un vilain petit canard parce que je pose une question à laquelle personne ne répond chez les Républicains. Pour gagner une élection et pour appliquer un programme, il faut des alliés. Or, en réalité, en refusant de revoir nos alliances, en restant éternellement alliés avec les centristes, on présente un programme qu'on sera impossible d'appliquer. Dire la vérité et poser une question à laquelle personne ne répond, c'est toujours dérangeant.
Mais ma question, justement, si vous pouviez répondre, c'est changer de parti, c'était la seule manière de relancer votre carrière ?
Non,
d'avoir
c'est...
un mandat, puisque
non,
vous n'en
non,
avez
non,
plus.
Non, c'était pas... j'avais une autre proposition, vous le savez très bien, enfin, ça se sait, voilà, j'avais une autre proposition pour une autre liste à la même place.
Chez Nicolas Dupont-Aignan.
Voilà, ce qui est cohérent d'ailleurs entre nous, ces deux personnes qui ont les mêmes positions sur les questions européennes, et je regrette qu'il n'y ait
pas de liste
unique.
Mais restez aux Républicains, vous n'étiez pas en position d'être élu. Donc,
j'ai jamais demandé
quitter,
de place. J'ai jamais
Laurent
demandé
Wauquiez
de
pour Marine Le Pen,
non, non,
c'est pour avoir un mandat.
Non, je ne pas Laurent Wauquiez, excusez-moi, moi j'ai adhéré à un parti en 76 qui était issu du gaullisme. Laurent Wauquiez est un épiphénomène qui passera comme les autres secrétaires.
Un épiphénomène, Laurent Wauquiez
ben, épiphénomène, je veux dire, il est là pour X années, mais c'est pas, il n'incarne pas une doctrine politique. Voilà. Non, je vais au Rassemblement National parce qu'aujourd'hui, je pense que sur l'Union européenne, c'est ceux qui ont un discours de vérité. Et deuxièmement, je pense aussi qu'aujourd'hui, ce parti, il faut le sortir de l'isolement, ça représente un quart des électeurs.
Thierry Mariani, hier Marine Le Pen a dénoncé la répression policière. Le Rassemblement National a-t-il pris le parti des Gilets jaunes contre celui des forces de l'ordre ?
Le Rassemblement National n'a pas choisi Gilets jaunes ou forces de l'ordre, on est les deux. Je veux dire,
pourquoi ne parler que de la répression policière et ne pas condamner la violence des Gilets jaunes ?
Oh, Marine Le Pen a été très claire, elle a condamné toute violence. Voilà, elle a condamné absolument
elle a pas condamné
toute
violence. Celle, la violence des Gilets jaunes, les journalistes
violence,
envoyés
mais...
à l'hôpital, des élus menacés
mais si,
jusqu'à
ça,
leur domicile.
Mais attendez, mais ça, tout le monde
ça,
le condamne.
Ça ne mérite pas d'être condamné officiellement
si.
Par le parti.
Quand on condamne toute violence, on condamne aussi bien la violence excessive dont sont parfois victimes certains manifestants et la violence intolérable dont sont victimes les forces de l'ordre ou les journalistes.
Mais
ou
hier,
les
elle a choisi de parler de la violence policière, de la répression policière.
De mémoire, dans son discours, elle a condamné toute violence. Voilà, non, c'est évident qu'on voit bien que M. Macron essaye de jouer policier contre Gilets jaunes. Je répète, en réalité, on n'est pas pour l'un ou pour l'autre.
Thierry Mariani, dans le début de sa lettre aux Français, le président rappelle la chance que nous avons de vivre en France, car selon lui, c'est l'un des pays les plus libres et les plus égalitaires. Vous êtes d'accord ?
Globalement, quand on regarde la planète, oui, soyons honnêtes, il y a 200 États, on est dans les 30 meilleurs ou moins mauvais. Mais enfin, bon, je veux dire, là, il enfonce une porte ouverte, c'est pas grâce à lui.
On rappelle un contexte, en tout cas.
Oui.
Le président affirme dans sa lettre qu'au grand débat national, il n'y aura pas de questions interdites. Benjamin Griveaux avait dit qu'il n'y aurait pas de débat sur la peine de mort, l'avortement, le mariage gay. Donc ça vous rassure aussi ?
Oui, mais dans le même temps, Benjamin Griveaux a dit qu'on ne reviendrait pas sur la politique économique, qu'on ne reviendrait pas sur les mesures votées, que sur l'ISF, il faudrait attendre. Donc, vous savez, ce grand débat, ça part déjà un peu dans tous les sens. 34 ou 35 questions, qu'est-ce qui va exactement en sortir ?
Le débat est ouvert, non ?
Oui, le débat est ouvert.
Il y aurait eu moins de questions, vous l'auriez reproché.
Non, d'abord, il y a déjà eu un grand débat. Il y a déjà eu un grand débat, c'est il y a un an et demi. Il y avait des présidentielles et des législatives, c'est le grand débat par excellence. Ensuite, excusez-moi, c'est une tentative désespérée, chacun l'a bien compris, pour reprendre la main. Mais qu'est-ce qui va en sortir ? Comment ça va être organisé ? Personne ne le sait.
Dans le domaine de l'immigration, le président prévient que le grand débat national ne pourra pas remettre en cause le droit d'asile. Ça vous paraît être une condition acceptable ?
Mais le problème, ce n'est pas le droit d'asile. En France, le droit d'asile, tout le monde est d'accord. Quand on est vraiment persécuté, on doit être protégé. Sauf que le droit d'asile, aujourd'hui, est complètement dévoyé. Et d'autre part, on sait très bien que quand quelqu'un est débouté, c'est-à-dire en clair, on lui refuse le droit d'asile, il reste éternellement en France. C'est ça le problème.
C'est peut-être exagéré, là, quand même.
Pas éternellement, non. Mais non, bien sûr que non. À peu près, regardez les chiffres de mémoire, à peine 15 à 20% des déboutés du droit d'asile sont expulsés.
Il y a des batailles de chiffres. Thierry Mariani, je vous pose quelques questions qu'Emmanuel Macron soumette au débat. Quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité ?
Quels impôts faut-il, à mes yeux ? Je pense la CSG qui touche tout le monde. Et puis, il faut revoir... Sur l'ISF, il a fait l'inverse de ce qu'il fallait. C'est-à-dire, en réalité, on continue à taxer les propriétaires. Parce que quand on dit qu'on a supprimé l'ISF, en réalité, on oublie qu'on a créé un impôt sur les propriétaires
immobilier.
Et les petits propriétaires, voilà, immobiliers. Je pense qu'il aurait fallu l'inverse, c'est-à-dire continuer à taxer les capitaux internationaux. Et au contraire, tous ceux qui ont fait un petit investissement, les protéger.
Quelles sont les économies qui vous sont prioritaires à faire ?
Sur l'administration, peut-être un bel exemple là qu'on a eu d'actualité, on découvre qu'il y a des organismes chargés par exemple d'organiser un grand débat qui coûte assez cher et qui sert finalement pas à grand chose puisque le jour où on en a besoin, ils sont plus là.
Vous parlez de Chantal Jouanneau qui se retire parce qu'il y a eu une polémique sur son salaire.
Oui, mais qui reste quand même en place et qui reste ce qui est quand même un peu un double jeu.
Quelle est la bonne dose de proportionnelle législative ? C'est une question qui lui est posée aussi.
Oui, quelle est la bonne dose proportionnelle? Alors là, il y a un vrai. Moi, je pense qu'il faut une petite dose de proportionnelle législative.
Marine Le Pen dit proportionnelle intégrale.
Oui, c'est d'ailleurs notre seul point de désaccord, je vais vous dire franchement. J'en ai discuté encore avec elle hier soir. Voilà, bon, ça, c'est un sujet qui est à discuter, je reconnais.
Ouais. Est-ce que vous appelez Thierry Mariani à boycotter le débat pour exprimer votre défiance vis-à-vis du gouvernement, puisque vous dites que ça ne sert à rien, en gros?
Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne. Mais ça va être organisé par les maires. D'abord, première remarque, les maires, ce n'est pas leur job. Dans les débats qu'il y avait eu précédemment, c'était les préfets et sous-préfets. Après, je pose toute une série de questions. Qui va faire, par exemple, le compte-rendu? Comment ça va remonter? Et puis, un détail, dans un an, on a des municipales. Vous doutez bien que tous ces débats vont être utilisés aussi localement, à la fois par les maires sortants ou par leurs opposants, dans le cadre de ces municipales.
Si on ne fait pas de débat, on fait quoi?
Si on ne fait pas de débat, ben on gouverne. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui on a un débat? Parce qu'on a un président qui a été sourd, parce qu'on a un président qui s'est tu, alors que, franchement, je pense que François Hollande, que je n'ai pas soutenu au début du mouvement des Gilets jaunes, il les aurait invités, il aurait parlé, et ça serait réglé. Nicolas Sarkozy, pareil. On a un président qui était sur son Olympe et qui était Jupiter. Ben, résultat, à force de rester Jupiter, il est obligé de revenir dans la boue.
Dans la boue?
Oui, dans la boue, parce qu'il a créé, je veux dire, aujourd'hui un chaos en France, dont il est le seul responsable.
Thierry Mariani, revenons à votre départ des Républicains. Qu'est-ce que Laurent Wauquiez aurait pu vous dire ou a dû vous dire pour vous convaincre de rester dans le parti qu'il dirige?
Qu'on avait un programme et qu'on l'appliquerait en choisissant des alliances qui nous permettraient de les appliquer. Si vous me permettez une minute, enfin un peu plus long, ça fait des années que je suis à droite. Ça fait des années
1976, vous aviez adhéré au RPR.
Ça fait des années que je suis à droite. Ça fait des années qu'on tient des discours fermes, etc. Et on ne les applique jamais quand on est au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on dit « Ah mon Dieu, les centristes, ah mon Dieu, Douste Blasi, ah mon Dieu, un tel, ah mon Dieu, voilà. » On ne peut pas les appliquer parce qu'ils ne sont pas d'accord. On ne pourra pas les appliquer à nouveau si les mêmes alliés, ce sont les centristes. Donc il faut changer d'allié si on veut être honnête avec nos électeurs.
Si Laurent Wauquiez, vous avez proposé une place éligible aux européennes, est-ce que vous auriez quand même quitté ce parti où vous militez depuis 1976 et dans lequel vous avez tous vos amis?
Oui, non. Je pense que oui. Franchement, je pense que oui, parce qu'on est dans une impasse évidente. Et aujourd'hui, je le répète, on trompe les électeurs.
D'un côté, Alain Juppé quitte les Républicains parce qu'il les trouve trop à droite. De l'autre, vous quittez les Républicains parce que vous les trouvez trop à gauche. Votre ancien parti est-il condamné à disparaître?
Je trouve qu'aujourd'hui, mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. C'est-à-dire, en réalité, je le répète, il propose un programme qu'il ne sait très bien à l'avance qu'il ne pourra jamais l'appliquer. Voilà. Donc, où il est cohérent, c'est-à-dire qu'il propose un programme et il choisit les alliés avec qui il peut réellement l'appliquer. Voilà. Après, trop à gauche, trop à droite. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que ça, c'est complètement dépassé. La vraie différence, elle est effectivement sur ceux qui sont plutôt, j'allais dire, sur une tendance, on va dire, mondialiste et sur ceux qui veulent plutôt un retour à certaines valeurs et qui se disent que au sein de la France, les vrais patriotes, les nationalistes ou les nationaux, enfin, parce que nationalisme, maintenant, c'est un gros mot, on peut appliquer une autre politique.
Merci Thierry Mariani.
Merci.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. C'est tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 8h26, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Et puis la revue de presse de David Abiker.
David Abiker, le grand débat national. Et si on arrêtait de transformer les mots en armes, on vous dit tout sur Europe 1. Il y aura aussi Nicolas Canteloup et la revue de presse.
Dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker qui s'installe, toute la presse épluchée sous le bras, la revue de presse dans deux minutes. Vous êtes prêt, David?
Absolument, Nikos.
Et à 8h40, prêt à commencer la semaine en beauté avec Nicolas Canteloup et la revue de presse qu'à ne pas manquer sur Europe 1.
Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol. On fait un point sur la semaine, hein, Laurent.
La semaine, elle s'annonce comment, mon cher?
Ben, elle s'annonce très évolutive. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous débutons sous un jour, ma foi, hivernal, mais dans une dimension assez tranquille, avec des températures qui s'échelonneront cet après-midi entre 8 et 17 degrés. Donc, il ne fait pas trop froid. Nous avons quand même de la neige sur le flanc est. C'est un hiver traditionnel, presque. Mardi, des éclaircies vont se généraliser demain avec des températures de 7 à 12 degrés. Donc, ça veut dire qu'il fera un petit peu plus frais, mais que le ciel sera dans l'ensemble dégagé. Mercredi 16, les éclaircies tiennent le coup, mais à ce moment-là, ce jour-là, nous allons avoir un retour de situation en Méditerranée avec l'arrivée enfin du vent marin. Et c'est terminé avec le Mistral et la Tramontane, et vous êtes vraiment heureux, je le sais. Jeudi 17, une zone de pluie traverse la France. Vendredi 18, le froid se dessine. Ah, c'est là que ça commence à changer. Le froid se dessine, de la neige dans les Alpes et sur les massifs alpins, et en général, et sur les massifs vosgiens. Dans la journée, des pluies fréquentes. Samedi et dimanche, nous sommes le 20. le 20 janvier, l'hiver se renforce, des giboulées de pluie et parfois de neige, y compris en plaine. Donc vous voyez qu'à partir de la charnière se situera à partir de samedi et dimanche. Le 21 et le 22, nous pourrions avoir aussi un froid qui va s'incruster et qui va s'intensifier. Autrement dit, la météo devrait changer progressivement dans le courant de la semaine. C'est la raison pour laquelle elle est évolutive. Mmh. Et la semaine prochaine pourrait être une semaine extrêmement froide.
À suivre alors. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure, juste avant 9h.
Lundi 14 janvier, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Le grand débat va être officiellement lancé demain dans l'heure par Emmanuel Macron. En attendant, le chef de l'État a écrit comme promis une lettre aux Français, une lettre où il pose 34 questions et où l'entend transformer les colères en solutions. Qu'en pensent les Gilets jaunes ? Jihan Bergaoui a posé la question à Benjamin Cauchy, figure toulousaine du mouvement. Il est très déçu par la lettre du chef de l'État, on l'écoute.
En précisant d'une part qu'il ne reviendrait pas sur la suppression de l'ISF, qu'il ne changerait pas de cap politique dans cette lettre, à quoi cela va-t-il servir si ce n'est, comme il le dit lui-même, de vous faire parler? Mais les Français ont clairement posé leurs revendications. Donc s'ils pensent que c'est une sorte de thérapie de groupe que d'enfermer les Français dans un débat national s'il n'y a aucune issue, je peux vous assurer que la seule issue qui sera possible, ça sera celle du retour aux urnes.
Et si vous ne l'avez pas lu, la lettre du président de la République est disponible sur notre site europe1.fr. 12 immeubles du quartier de la rue du Trévise à Paris inaccessibles et fragilisés après la violente explosion qui a dévasté plusieurs appartements et magasins samedi. Au total, 4 personnes sont mortes, dont 2 pompiers. Ils venaient de la caserne du Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. Hier soir, les habitants du quartier sont venus spontanément exprimer leur sympathie devant la caserne. Et parmi eux, il y avait Élise, la maman d'Octave de 7 ans.
C'est des jeunes qui sont complètement dévoués, qui sont d'une humanité extraordinaire. Donc ça nous bouleverse de nous dire qu'il a pu leur arriver malheur.
Pour l'intervention qu'ils ont fait pendant l'explosion, je leur dis bravo parce que ça, c'était très courageux. Et je suis un peu triste parce qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont morts et je leur dis bravo parce qu'ils ont accepté de mourir pour sauver des gens.
Pensée et respect pour la famille et pour les victimes de ce terrible accident. Propos recueillis par Pierre Herbulot pour Europe 1. Ce matin, la cagnotte de soutien ouverte pour les familles des 2 pompiers atteint plus de 176 000 euros. Ouverture du procès du viol du 36 quai des Orfèvres. 2 policiers de la BRI comparaissent pour viol en réunion sur une touriste canadienne. Les faits se seraient déroulés en avril 2014 dans l'ancien siège de la PJ parisienne. Hécatombe en Australie. 1 million de poissons ont été retrouvés morts ces derniers jours dans des fleuves du sud-est du pays. Hécatombe imputée par le gouvernement à la sécheresse. Les universitaires, eux, pointent la mauvaise gestion des cours d'eau. Football dans un stade Vélodrome très hostile à ses joueurs. L'Olympique de Marseille a terminé 1-0 face à Monaco. Et les championnats de France, les championnats du monde de handball avec le 3e match des Bleus ce soir à 20h30. La France qui affronte la Corée.
Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite, on retrouve David Abicaire pour la revue de presse.
Bonjour David Abicaire.
Bonjour Nico, bonjour Céline et bonjour à tous. À la une de la presse ce matin et du courrier, d'une certaine façon, c'est la lettre aux Français du président de la République. Et vous avez ce matin 2 types de journaux. Vous avez ceux qui jouent le jeu de ce débat et qui mobilisent les Français. Macron vous écrit, titre l'Ardennais. Place au débat, choisit la Croix. Transformons les colères en solutions, reprend le Figaro. À vous la parole, interpelle l'éco-républicain. Et puis vous avez les journaux qui déjà prennent de la distance, qui n'y croient pas à ce débat. Quitte ou double, titre la Provence. Les cris de rattrapage s'amuse Libération. Macron lance son débat, c'est le courrier Picard. Quant à l'Humanité qui a fait le choix de ne pas publier la lettre du président, le ton est encore plus clair. Encore, les gilets jaunes, pas dupes des ruses de Macron. Vous l'entendez ce matin, il y a 2 presses, celle qui dit chiche et celle qui dit bof.
Oui, et puis c'est assez clair dans les éditos ce matin, c'est partagé.
Sur l'utilité et la pertinence de la démarche, vous avez les optimistes et les pessimistes. Prenez Sébastien Georges dans l'Est républicain. Ce grand débat peut constituer un des actes fondateurs de la nouvelle gouvernance promise par le président. Mieux, dans l'éclair des Pyrénées, Patrice Carmouze parle d'un incroyable exercice de renouvellement de la démocratie et de la politique. Aux citoyens de s'en emparer et de prendre le pouvoir. Ouest France est sur la même tonalité. Bâtir un nouveau contrat pour la nation, le président ne le promet pas. Il l'écrit. Plus qu'un engagement, c'est un contrat. Il faut le prendre au mot. en participant. Voilà pour les éditos qui feront plaisir au chef de l'État ce matin. Ensuite, ça se gâte un peu pour le grand débat. Dans l'Humanité, Paul Masson parle de cette lettre comme d'une manœuvre de plus, une provocation. Pour Libération et Paul Quignot, avec cette adresse aux Français, le chef de l'État est en fait candidat. Candidat à sauver les 3 ans qui lui restent à l'Élysée. L'arrogant Jupiter tente, avec ce texte, de se mettre à hauteur de rond-point. Laurent Baudin, dans l'Alsace, évoque, lui, un débat supposé sans tabou, mais dont semble exclue la remise en cause de l'impôt sur la fortune.
Des questions également sur la méthode, David Abiquet.
Le Figaro donne la parole au président d'associations d'élus locaux. D'accord pour être facilitateur, disent en chœur Dominique Bussereau, François Baroin et Hervé Morin, mais pas organisateur, et il pose 2 conditions à l'implication des maires. Une parole libre et que le gouvernement surtout dise ce qu'il fera des conclusions du débat. Le Parisien aujourd'hui en France dresse lui le profil du candidat idéal pour piloter la consultation après la défection de Chantal Jouanneau. Incontesté et incontestable, garant de l'indépendance et de la neutralité devra être le candidat. Alors qui ? Jean-Louis Borloo qui a dit non ? Jean-Paul Delevoye, haut commissaire chargé de la réforme des retraites ? Jacques Toubon, défenseur des droits ? Tout cela, ils font quand même très ancien monde, un peu comme la méthode de consultation, s'amuse Paul Karachi dans le Midi Libre. Alors que la viralité des réseaux sociaux structure le mouvement des Gilets jaunes, le président a opté pour l'écrit sur du vrai papier qui reste.
Il parle d'un appel, en fait, en mode Gutenberg 2.0.
Eh ben oui, Nico, ça pose la question d'Internet pour sortir de cette crise. Et là, Nico, on peut s'arrêter un instant sur la une du Télégramme ou de l'Éco-Républicain avec le retour du bon vieux cahier de doléances sans papier. Quid de la démocratie numérique, des forums, de ces réseaux sociaux qui annonçaient le triomphe de l'intelligence collective? À la place, vous avez la guerre des tweets, les fils de discussion pollués par les violents qui éloignent les modérés, les concours de cagnottes, c'est la une de Nord Littoral, vous avez les forums pourris par les fake news et bien sûr le règne du cynisme et du ricanement en guise de débat d'idées. Il est chouette Internet. Alors en défense d'une certaine idée du web démocratique, on lira ce matin sur la tribune.fr l'interview d'Axel Daucher, ancien dirigeant de Deezer, fondateur de Make.org, qui veut mettre les civitech, autrement dit les start-up civiques, au service du débat en support de la démocratie représentative. Il démarre dès le 1er février pour le débat européen. On lira aussi, pour finir, le plaidoyer de Philippe Claudel dans La Croix. Je vais terminer avec ces mots d'écrivain. Pour que le débat démocratique fonctionne, dit-il, il faut que le langage de l'émotion cède la place à celui de la raison. Que la langue redevienne un bien commun et son usage la plateforme sur laquelle rebâtir un véritable projet social. Il faut cesser de transformer les mots en armes. Il faut qu'ils soient le ciment et non la muraille. Il faut simplement, mais ce n'est pas si simple, réapprendre à se parler et à s'écouter.
Intelligible mot pour pensée intelligente. C'était la revue de presse présentée par David Abiquer tous les jours à 8h30 sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h38.
Bougez pas, il arrive, il est gonflé à bloc. Ah, il veut en découdre. Le maestro Canteloup et sa revue de presse sur Europe 1. C'est juste après ça. On vous accompagne jusqu'à 9h. Europe 1.
Il est 8h40.
Julie relit ses mots, Nicolas Canteloup aiguise les siens. C'est la revue de presse et c'est parti maintenant.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu avec
surround,
Nikos.
Évidemment.
Oui, surround, toujours avec des mots. Le title surround, c'est bien sûr, vous l'avez compris, nous l'avons dit et redit, la parution hier soir du livre d'Emmanuel Macron.
Du livre ?
Oui, la lettre. Oui, moi j'ai trouvé ça interminable, Julie. On est plus proche du livre que de la lettre. Hein. Même le dernier Houellebecq, j'ai trouvé plus court, franchement. Bref, Macron, Emmanuel Macron, le président, nous a tous flingué le dimanche. Notre dimanche soir, en nous faisant bosser de 21h à 23h. C'est son côté, ça doit être son côté travail du dimanche, son côté de droite. Bon, moi, je vais me recoucher. À toi, Julie, je te laisse tes commentaires.
Bah bonne nuit, Nicolas, alors. Allez, François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour.
Alors, cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français.
Ah, je constate que Et le surdoué de la politique, le Mozart de l'Élysée, c'est bien calmé, n'est-ce pas? Si, souvenez-vous, début décembre, c'était « on lâche rien hein ». À Noël, c'était « bon ben pardon, tenez, prenez voilà, 10 milliards voilà. ». Et puis en janvier, ça écrit des lettres de chialeuse. Hein. « Oh ben, écoutez, oui, la France est super, pour pas faire la bagarre. Et quelles économies vous semblent-elles prioritaires? Donnez-moi des solutions, j'y arrive pas tout seul. » Il y a des questions. Je sais plus un président. Non, c'est Julien Lepers. J'ai envie de lui dire, alors, on ne sait plus où on habite, gamin, on finance son froc.
Hein? Emmanuel Macron va aller à la rencontre des Français, hein. Il sera demain dans l'heure.
Oui, c'est pas mal ça, que le maître des horloges soit dans l'heure.
Hein. Oh là là,
ça me plaît, Cabrol, je savais que ça vous plairait. Monsieur Petite Blague, mais pas seulement, Monsieur Petite Blague et Petite Croissance. Oui, non, sérieusement, la France va mal. Franchement.
Oui.
Restons sérieux, reconcentrons-nous sur les vrais mots qui sont écrits sur ma feuille. Parce que je peux savonner. Écoutez bien, c'est très bien, monsieur Lagasse.
Oui.
Avec moi, la France, c'était je suis charlu.
Oui.
Hein? Mmh. Avec Macron, c'est je suis chiant au lit.
Oh, mais vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour.
Il m'a inspiré, bravo. Macron, cette nuit.
Vous avez le nez bouché, Nicolas, ou quoi?
Pas du tout.
Il a enrhumé.
Merci François Hollande, à bientôt.
J'en prie. Au revoir, monsieur Aliagas, monsieur Clignac,
monsieur le président.
Et les autres.
L'actualité du jour, c'est donc cette lettre du président adressée aux Français. On en parle maintenant avec le Premier ministre. Bonjour Édouard Philippe.
Ah ben, c'est ça, c'est une très bonne nouvelle.
Quoi donc?
Non, vous venez de me présenter en disant que j'étais Premier ministre, donc oui. Vous confirmez que je suis toujours en poste. Et... Non, comme ça bouge beaucoup, monsieur Apathy, confirmera, ça bouge beaucoup en ce moment, donc c'est
mais
une bonne nouvelle.
Mais oui, vous êtes toujours en poste. Alors, parlez-nous de cette lettre. Quel rôle vous avez joué, vous, d'ailleurs?
Alors, sans prétention, j'ai eu un rôle central, hein, décisif même. Sans moi, autant vous le dire, il n'y avait pas de lettre.
Ah, vous l'avez coécrite?
Pas du tout. Mais j'ai quand même eu un rôle déterminant. Je vous explique. Hier soir, dimanche soir, le président me convoque, me dit « Tiens, Édouard, mon grand tout mou, c'est...
Oui, non, mais mon grand tout.
Non, mais c'est... Madame Leclerc, c'est très affectueux dans sa bouche. Oui. Prends cette lettre, tu me fais 67 millions de copies, c'est ma lettre en français. Autant vous dire que j'ai passé 2-3 ramettes, 5-6 cartouches d'encre, la nuit était courte.
Alors, les Gilets jaunes ont déjà dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette lettre d'Emmanuel Macron. Vous avez d'autres solutions de côté, vous?
Alors, oui. Une solution très concrète, c'est un nouveau concept de semaine, c'est la semaine des 6 jours.
Expliquez.
Alors, la semaine des 6 jours, hein, qui se décompose comme suit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.
Et samedi alors?
Alors, justement, il n'y a plus. Il n'y a plus de samedi. Alors, certains sont déçus, je le conçois, mais plus de samedi, plus de manif.
Ah, et voilà. Ah bah écoutez, on n'est pas sûr que ça va marcher votre truc là. Hein.
Alors, moi non plus.
Eh bien, bon courage à vous, monsieur Philippe. On a découvert cette lettre d'Emmanuel Macron hier soir. Elle ne satisfait pas les Gilets jaunes, ni la France insoumise d'ailleurs. Bonjour, monsieur le président. Oula.
Pardon. Bonjour à toutes et à toi. Oui, j'ai écrit toute la nuit. Alors, ils sont toujours pas contents, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est très bien. Non, mais franchement, elle est très bien, ma lettre. Hein, en gros, j'ai dit, la France est super. Le problème, c'est vous, les Français. Hein, en tout cas, Jean-Michel Apathy a bien décrypté ma lettre. Plus exactement, ma petite arnaque. Je pose des questions volontairement trop compliquées, comme comment organiser l'étape? Qui peut répondre, hein? Pour montrer aux Français qu'ils sont incapables de répondre. Je suis un commandant de bord qui dit à ses hôtesses, alors, comment on pilote, hein? Comment on atterrit? Prenez les commandes, vous qui êtes si malins.
Alors, vous pensez que le mouvement va encore durer, monsieur le président?
Oui, écoutez, jusqu'aux européennes, facile, oui. Écoutez, je vous explique. Édouard Philippe, c'est un petit peu mon Laurent Cabrol à moi.
Ouais,
il prévoit l'inverse, je prévois l'inverse. Début décembre, il m'a donc dit, je suis sûr que le mouvement va s'essouffler avant Noël. Donc préparez-vous réellement au bordel jusqu'à fin mai.
Ben merci, monsieur le président. Et prends ça, Laurent Cabrol. Hein. Une rumeur a couru ce week-end. La cagnotte Litchi de soutien aux policiers serait truquée. Elle aurait été alimentée artificiellement. Laurent Wauquiez, bonjour.
Bonjour Madame Leclerc. Je viens il y a quelques minutes de me faire insulter, traiter d'épiphénomène par Thierry Mariani, en pull sur votre antenne. Il aurait pu mettre un costume pour m'insulter. Et vous n'avez rien dit, rien noté. En plus, vous dénigrez sans arrêt mes amis gilets jaunes. Pourquoi dites-vous une rumeur ?
Parce que c'est faux. En fait, des internautes ont remarqué qu'il y avait autant de versements la nuit que le jour. Mais Litchi s'est expliqué, il y avait tellement de gens qui voulaient donner que le site a planté et le retard accumulé pendant la journée s'est fait graduellement pendant la nuit.
Mais voilà. C'est faux, madame, c'est faux. Le site Gilets jaunes, onvousment.com est formel.
C'est le site Gilets jaunes, ça.
La cagnotte est fausse. Elle a été créée pour faire croire les policiers que les policiers les plus populaires... Pardon. Pour faire croire que les policiers sont plus populaires que les gilets jaunes.
Ah, mais qui a versé l'argent alors ?
Vous voulez vraiment le savoir ?
Bah oui.
Vous voulez vraiment le savoir ?
Bah oui.
Enfin, il baisse les yeux, regardez-le. Vous avez deviné ? C'est Jean-Michel Apathy.
Ah bon ?
Le site d'information gilets jaunes qui s'intitule touslescomplots.org est formel. C'est Jean-Michel Apathy, le journaliste milliardaire qui versait de l'argent toute la nuit depuis son triplex de 600 mètres carrés dans le 7e.
Oh putain, mais je vais me le faire, le crétin du puits en velay.
Oula, non, non, pas de violence, Jean-Michel. Enfin, tout le monde a salué votre calme face à cette personne. Alors, monsieur Vauquier, Jean-Michel Apathy s'est expliqué. Il n'est pas millionnaire. Il n'habite pas dans le 16e d'ailleurs.
Ah oui, ah oui. Et comment s'appelle la cagnotte pour les policiers ? Litchi.
Litchi, oui.
Comme de par hasard. Et pourquoi Litchi ?
Non.
Parce qu'elle est dirigée par des Chinois juifs qui veulent, qui veulent contrôler le monde. Mais oui, c'est facile de crier hola. C'est très, oui, monsieur les gars, c'est très bien expliqué si vous lisiez le site leschinoisjuifsdominentlemonde.fr. D'après vous, quel est le vrai nom de Jean-Michel Apathy ?
Jean-Michel Apathy.
Oui.
Faux, il s'appelle Moshe Nguyen. Comme de par hasard.
Nguyen, c'est vietnamien, c'est pas chinois.
Oh. Ah. Ne cherchez pas le.
Oui, moi, on j'ai pas le temps.
Mais je trouverai pour demain.
On a lu aussi des commentaires complotistes horribles concernant l'explosion de gaz à Paris samedi.
Madame Julie, mes amis les gilets jaunes sont très clairs là-dessus. L'explosion de gaz dans la boulangerie est une idée de Emmanuel Macron pour qu'on ne parle pas de l'acte 9 des Gilets jaunes.
C'est ça.
Quoi, il n'y a pas de c'est ça. Comme de par hasard, dans les boulangeries, on vend quoi ? Madame D'Acosta, on vend quoi des boulangeries ?
Du pain, des pains au chocolat, des croissants.
Il faut dire des chouquettes, ça l'arrange.
Ah, des chouquettes.
Il y a marqué chouquettes sur la feuille. Donc vous essayez pas de détourner la vanne, en disant du pain, des pains au chocolat. C'est chouquette qu'il fallait dire. Et chouquette, c'est l'anagramme de quoi, chouquette ? De couchette. Comme les trains
l'anagramme
du même nom.
De couchette,
oui, alors. Comme les trains du même nom, les trains couchettes.
Qu'est-ce que c'est que ça hein ?
Train, gaz, ça ne vous rappelle pas les heures sombres de l'histoire ?
Oh, mais ça va pas, non.
Et comme de par hasard, oui, comme de par hasard, si on change 5 lettres à Macron, eh bien ça fait Hitler. Voilà, merci les Gilets jaunes de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le monde.
C'est ça, on va vous laisser, je crois. Merci Laurent Wauquiez, merci. Emmanuel Macron a donc écrit aux Français, on découvre la lettre ce matin, pour donner le cadre du grand débat national. Alors rappelons que certains sujets ne seront pas débattus, quoi qu'il arrive, comme la remise en cause de la peine de mort, de l'IVG ou du mariage pour tous.
Sus à l'ennemi, Taillot, marchons sur le château, alléluia.
Bonjour. Il y avait longtemps. Alors, en tant que fervent opposant au mariage pour tous, on imaginait bien que vous alliez réagir, vous.
Et comment, femelle ? Ainsi, seule sa majesté choisirait les sujets sur lesquels le peuple a le droit de réfléchir, c'est ça ? Nous devrions nous réjouir que l'oligarchie daigne nous accorder la parole sur un ou deux sujets secondaires quand le principal sujet est banni, dictature macroniste. J'en connais un qui va finir par sécher une branche d'arbre. Taillot, alléluia, hosanna au plus haut des cieux. Abdoulilah, Abdoulilah. Pardon, c'est la fièvre, c'est la colère.
Alors, monsieur De Villiers, c'est pas le sujet principal, le mariage pour tous quand même.
Écoutez, excusez-moi, mais quel sujet plus important ? Les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir ? Bah, la belle affaire, de toute façon. Ça coupe l'appétit de voir deux goudous se tenir la main.
Oh, hein oh,
le chômage, non mais le chômage, mais que l'on reste chez soi au moins. Quand on regarde Motus, on ne risque pas de rencontrer les invertis moustachus qui font des GPA dans nos rues.
Oh là 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 là.
Non, il n'y a pas de oh là là, non femelle. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important qu'un papa et une maman. Et plus encore, un papa dans maman.
Oh là 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 là.
Grande forme.
Le retour de Philippe de Villiers, dis donc.
Et grande forme avec le retour de Villiers. Comment il vous appelle ? Non, femelle.
Non, femelle. Femelle.
Nicolas Canteloup, tous les matins à 8h40 sur Europe 1, c'est la revue de presque. Et à partir de 9h, Wendy Bouchard sur notre antenne. Quels sont les sujets que vous allez développer ce matin, ma chère Wendy? Bonjour.
Chers amis, bonjour. On s'intéresse au grand débat qui ouvre demain avec des Français très partagés. 80% d'entre vous ne croient pas à l'utilité de cette grande consultation, enquête scientifique et sondage Facebook que nous avons lancé, qui se rejoignent exactement. Alors, quand même, nous avons cette lettre du président. Hier soir, je vous demande si vous l'avez lue et si pour vous, son analyse a évolué, son analyse de la situation, quelle vous semble en tout cas les questions prioritaires. Je vous laisse largement la parole, le standard est ouvert dès maintenant au 39-21. Puis à 10h, on va sillonner un peu le monde avec un grand explorateur. Il s'appelle Christian Clot et son but est de prouver comment notre corps, comment notre mental peut s'adapter aux situations les plus extrêmes, de moins 60 degrés à plus 60 degrés. Il le fait en solitaire et bientôt, il embarque des candidats avec lui. Ça commencera l'année prochaine.
On a hâte de vous écouter, Wendy Bouchard. À partir de 9h sur Europe 1, à suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h.
Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nicolas Aliagas, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, vous nous avez fait tout à l'heure un état des lieux de la semaine évolutive, avez-vous dit, qui nous concerne. Oui. Mais aujourd'hui, comment est le temps?
Eh bien aujourd'hui, c'est de la pluie ce matin sur une bonne partie sud. Nous avons encore des chutes de neige sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, de la neige à partir de 600 mètres. Elle va se maintenir une bonne partie de la journée. Sur la moitié sud, l'amélioration se dessinera en deuxième partie de journée. Et puis nous aurons un temps plutôt agréable en Bretagne, Normandie, Val-de-Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Sur Paris, c'est un régime d'averse, mais pas trop important, comme sur Lyon, ça va devenir beaucoup plus sec cet après-midi. Quelques ondées sur le nord, la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, et puis sur le bassin méditerranéen, encore du vent. Les températures maximales entre 8 et 15 degrés, elles restent relativement douces pour la saison, 10 à Paris et 15 degrés à Marseille, mais ça va commencer à se gâter à partir de jeudi. On en reparle tout à l'heure à 10h.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le lundi 14 janvier, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater avec à la une ce matin, c'est 6 pages et c'est 34 questions. La lettre du président Macron adressée aux Français qui a été dévoilée hier soir, une lettre pour nous inviter à participer au grand débat national qui doit commencer demain. L'analyse de Jean-Michel Apathy, c'était ce matin à 7h40.
Comment voudriez-vous, demande Emmanuel Macron, que l'État soit organisé? Comment pourrait-on rendre la fiscalité plus juste? Des questions aussi générales sont écrasantes pour les citoyens. Ce qu'on constate, c'est que l'État ne marche pas très bien, qu'il coûte très cher. Oui. Donc il faut changer quelque chose. Mais quoi? C'est aux responsables politiques de nous le dire. Or là, on inverse la proposition, parce que le gouvernement est bloqué. Et ce que révèle en fait ce grand débat, c'est l'immense malaise politique et démocratique dans lequel nous sommes.
Retour sur ce drame qui a bouleversé toute la France, l'explosion d'une boulangerie rue Trévise à Paris, samedi matin, qui a coûté la vie à 4 personnes, dont 2 pompiers de la caserne de la rue du Château d'Eau. Une cinquantaine de personnes a été blessée. À 7h45, je recevais le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Il nous a rappelé la devise des pompiers, sauver ou périr. C'était ce matin.
C'est toute la communauté, hein, c'est tous les pompiers de Paris qui sont dans la douleur, dans la peine. Mais pour autant, vous savez, c'est dans les situations dramatiques comme celle-là que la solidarité est renforcée. C'est dans cette situation-là que l'amitié est resserrée. Dans notre pays, en ce moment un peu clivé, en recherche de repères, je peux vous dire que la solidarité, la générosité, l'engagement, il est porté par des jeunes que sont les pompiers de Paris.
Hommage ce matin sur Europe 1, Nathanaël Josselin, 27 ans, et à Simon Cartanas, 28 ans, disparu samedi rue de Trévise à Paris. Nos consultations médicales se feront-elles bientôt sur Internet? On appelle ça la téléconsultation. Un dispositif testé depuis un mois, avec des résultats plutôt satisfaisants. 40 000 médecins sont déjà habilités, comme le docteur Luc Lefaber. Lui emploie l'outil pour suivre ses patients régulièrement. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
Je m'occupe beaucoup de pathologies chroniques. Par exemple, un enfant qui, en consultation physique, fait une crise d'asthme ou une pneumonie. On a envie, les 24 heures, 48 heures, de savoir un petit peu comment ça se passe. Pour un enfant qui toussait beaucoup, je l'ai fait se dévêtir là, devant la caméra pour regarder un petit peu comment il respirait, pour l'entendre tousser. Et ça m'a permis d'adapter le traitement. Ces téléconsultations apportent clairement un plus.
Céline Dacosta, c'était un plaisir de commencer la semaine avec vous.
Plaisir partagé, Nikos.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Prenez soin de vous. Merci à toutes les équipes d'Europe 1, les équipes techniques, éditoriales, la rédaction. Merci de votre fidélité. Wendy Bouchard, le tour de la question, ça commence dans quelques secondes. Vous êtes là?
Avec plaisir. À tout de suite. À demain.
À tout de suite avec Julie. Bye bye.
Merci.